dans ce département.
58 en plus.
58, ça a augmenté depuis le département. Vous avez également à votre actif une longue expérience de la rencontre des communautés religieuses, soit comme missionnaire, soit comme guide de pèlerinage en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, en Amérique du Sud, etc., etc. Comme vous êtes très fidèle à la ville de Versailles, vous êtes également membre de l'Académie des sciences morales, des lettres et des arts. Et depuis votre retraite, après avoir fait l'assistance santé pour une trentaine de prêtres âgés de plus de 75 ans en EHPAD à domicile, m'avez-vous précisé, vous gérez actuellement la section locale de la mutuelle santé du clergé à l'évêché. Ariane de Blic, vous la connaissez tous.
Oui, non, non.
Outre son engagement émérite auprès du JIP 78, Ariane est de confession protestante. Elle nous précise qu'elle est mariée à un catholique depuis 50 ans. Ariane, tu es impliquée dans les relations œcuméniques depuis toujours et notamment dans l'amitié judéo-chrétienne. Et tu es au JIP depuis la création de l'équipe de Versailles, soit 2002 avec...
2004.
Voilà. Avec Xavier. Engagé, bien sûr, tu es engagé dans l'église protestante au niveau local, régional, national. Et j'étais très amusée de voir une petite parenthèse. Les femmes aiment bien parler de leur vie de famille. Tu es grand-mère de 13 petits-enfants.
Non, mais c'est pas moi qui ai dit.
Et c'est fondamental.
Mais j'aimerais quand même, Nadia, si tu me permets, je me fais chaque fois tiquer quand on énumère juifs, chrétiens, protestants, musulmans. Je tiens à dire et à redire que les protestants sont chrétiens. Et que ce que tu vois, je veux que tous les journalistes sont comme toi, c'est juif, catholique, protestant, musulman. Voilà. Mais tous les journalistes sont comme toi.
Chrétiens, j'en ai les travers. Je n'ai pas la carte de presse.
Oh. Voilà.
Mohamed Oukherouzi, j'ai bien connu également du JIP, un engagement ancien, fidèle et précieux au sein du groupe interreligieux pour la paix dont tu es le vice-président. Tu es également président et intervenant dans la vie spirituelle de l'Association des musulmans de Versailles, dont nous connaissons tous la mosquée qui nous ouvre ses portes très régulièrement. Et tu es surtout président du CIMI, Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, qui regroupe une quarantaine d'associations des musulmans des Yvelines. Merci de ta présence.
Merci. Je vais vous parler de vous, c'est
Florence, bonjour, entrez. Florence Ohayon, on est intervenant JIP hein, ce soir. Hein. On ne fait pas de l'entre-soi, mais on veut partager avec vous les connaissances et les compétences de nos membres. Florence Ohayon, tu es également vice-présidente du JIP 78 et tu es administratrice, tu es au conseil d'administration de l'ACIV, qui est l'association culturelle israélite de Versailles.
Voilà. Très ancien. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je suis également.
Tout près d'une médaille.
Je représente également la communauté de Versailles et le consistoire de France. Au consistoire de France, nous avons quelques bois à Versailles.
Permettra d'ailleurs de régler nos problèmes de micro. Effectivement, tous ces nous interroge sur effectivement les différentes organisations. On parle de consistoire, on peut parler du FORIF également, Forum de l'Islam de France. Donc toutes ces dénominations nous interrogent et en définitive, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est d'abord quel est le statut juridique des différentes communautés. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État est passée par là. Et pour le coup, les différentes communautés religieuses sont régies soit par la loi de 1901, soit par la loi de 1905. Et je vais vous demander justement de préciser dans quels termes pour chacun d'entre vous. Je commence par vous donner la parole, Père Alouchri. Je vais vous donner le micro pour le statut juridique des communautés pour, 5 minutes chacun.
Il faut attendre 1924, date de l'accord entre le Saint-Siège et le pape, évêque de Rome, et le gouvernement de la République française pour que l'institution ecclésiastique catholique se constitue juridiquement par une déclaration de Mgr Charles Gibier, qui est évêque à Versailles depuis 1906, à la préfecture du département de Seine-et-Oise le 23 avril 1924, suite à la création de l'association diocésaine, qu'on appelle ADV aujourd'hui, sous son autorité. Il faut savoir qu'entre 1906, où devait se mettre en œuvre la loi de séparation des cultes et de l'État, l'Église catholique, les catholiques en France, sont dans un vide juridique entre 1906 et 1924. Il faut attendre donc 24 pour être dans la communauté catholique aujourd'hui, dans les règles de l'association cultuelle, loi de 1905. Et donc, faut savoir pourquoi. La communauté des chrétiens catholiques est une communion présidée par un évêque qui a en charge pastorale de garder et de veiller dans l'unité de la foi et de la charité les fidèles de Jésus le Christ sur le territoire d'un département, ici à Versailles, pour les Yvelines depuis 1966. Avant, précédemment, c'était le département de Seine-et-Oise, que vous avez peut-être connu, Petite Couronne de Paris et les trois diocèses d'Évry, de Pontoise, en Val d'Oise, Essonne et Yvelines. Yvelines, c'est depuis 1966, c'est le siège épiscopal, le siège de l'évêque, donc du président en quelque sorte, un siège, un lieu de présidence et de direction, et est tenu par ce qu'on appelle un évêque. Episkopoi en grec est un mot qui veut dire surveillant général. Surveillant général, c'est ce que c'est que dans un lycée. Il doit veiller sur l'ensemble, en charge d'un diocèse. Alors le mot diocèse est un mot de l'époque de l'administration romaine, il y a 2000 ans, qui désignait une circonscription civile. Ça a été repris au 4e, 5e siècle par les chrétiens pour désigner une circonscription territoriale avec des habitants autour d'une métropole, ce qu'on appelle un diocèse aujourd'hui. Donc en France, le mot diocèse désigne l'ensemble de la communauté des chrétiens catholiques sur un département. Voilà. Donc le diocèse de Versailles ou le diocèse des Yvelines. Le mot épiscopoi donc veut dire celui qui a la charge de l'organisation et du lien qu'il y a entre les différentes communautés. Donc la communauté universelle, la communauté particulière, c'est le diocèse avec un épiscopoi, un évêque, qui depuis 1924, puisque autrefois au temps des rois, c'était le roi qui nommait les évêques, les responsables des communautés catholiques. Ensuite, avec le contrat de Napoléon, le concordat renouvelé par Napoléon, c'était encore plus sous la tutelle du gouvernement et le pouvoir public ne nomme plus les responsables de communautés religieuses en 1905. C'est ce qu'on appelle la séparation des églises et de l'État. Et donc, même si autrefois c'était la puissance publique qui donnait le responsable religieux de la communauté croyante, c'était quand même avec l'accord de l'évêque de Rome qui est le garant de la communion entre tous les évêques, et vous avez une compréhension de ce que des chrétiens vont devenir comme catholiques du 1er au 5e siècle dans un ouvrage qui est écrit par un professeur de Sorbonne qui vient malheureusement de décéder, Marie-Françoise Bessler. C'est passionnant. Il faut savoir qu'à Versailles, dans cette église particulière confiée à un évêque, il y a en fait 7 communautés paroissiales. Pour une ville de 85 000 habitants, il y a 7 églises communautés paroissiales qui sont identifiées, que vous connaissez peut-être à Versailles. Il y en a 4 qui étaient autrefois dans le régime d'avant la séparation d'église et d'État, et les catholiques, avec leur argent, ont construit Jeanne d'Arc, Sainte-Bernadette et Saint-Michel de Portchantel, qui sont des églises du XXe siècle, construites entièrement avec le don des fidèles. Dans les églises anciennes, il y a eu l'attribution pour l'usage du culte catholique qui aurait pu cesser dans ces églises anciennes au moment 1906. Heureusement, pour éviter des guerres de religion en France, heureusement encore, parce qu'on en a déjà connu, il y a eu l'affectation au culte catholique qui occupait ces églises à titre sans bail, mise à disposition. Mais c'est resté ces églises anciennes dans le domaine public, dans un bien domanial à charge des communes, non plus des fabriques, c'est-à-dire des communautés religieuses dans le cadre du ministère des cultes au XIXe siècle. Donc là, nous sommes dans des églises anciennes, si vous voulez, d'avant 1905, qui sont à charge pour le clos et le couvert et de tout le mobilier meublant utilisé même à des usages cultuels qui sont propriété de la commune, mais comme bien public inaliénable, mis à disposition de la communauté catholique par la loi de janvier 1907. Parce que c'est posé vraiment le problème de ce vide juridique dans lequel s'est trouvé les catholiques jusqu'en 1924, où il faut attendre qu'en accord avec le gouvernement, il y a la nomination de l'évêque, uniquement par l'évêque de Rome, avec des consultations, pour que s'il n'y a pas d'opposition du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur, ce prêtre qui est désigné pour être évêque, par exemple, de Versailles, sera habilité à être président de l'association diocésaine dans le cadre d'une cultuelle. Et on fonctionne comme les autres cultuelles qui peuvent gérer le culte protestant et le culte de juif de la synagogue. Voilà, pour l'instant.
Moi, ça va être beaucoup plus court parce que les protestants ont, dès le départ, soutenu cette loi de 1905, du 9 décembre 1905, qui instituait la séparation des églises et de l'État. Et donc, très rapidement, les paroisses protestantes, alors sauf en Alsace-Moselle, il y a un régime concordataire pour des raisons historiques, puisque en 1905, l'Alsace-Moselle n'était pas française, mais sinon, sur tout le reste du territoire, les paroisses locales sont constituées d'après la loi de 1905, en cultuelle 1905, et bien sûr, ici c'est le cas. Bon, cela dit, alors moi je vais surtout vous parler de l'église protestante unie de Versailles qui dépend donc de l'EPUF, c'est pas pour vous, mais c'est l'église protestante unie de France qui a rassemblé les calvinistes et les luthériens. Mais vous savez sans doute qu'à Versailles, il y a aussi une paroisse anglicane, St. Mark Church. Et il y a aussi une église évangélique de Pentecôte, grâce à qui nous avons une sono ce soir. Hein. Enfin, c'est le pasteur qui nous a dépanné, on a plein de problèmes ici. Voilà, donc tout simplement, le statut juridique c'est 1905 pour cette communauté paroissiale locale.
ce qui concerne la communauté juive, alors la communauté juive est régie par une association loi de 1905. Elle s'appelle d'ailleurs la CIV, Association culturelle israélite de Versailles. Alors je n'ai pas réussi à remonter en fait pour savoir exactement quand cette association a été créée. Je pense que en fait elle a dû être recréée après la guerre, j'imagine. Et en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la synagogue de Versailles, la très belle synagogue que nous avons, et si vous ne l'avez pas encore visitée, je vous engage à le faire, date de 1886. C'était un don de Madame Furtado à Haine, et c'est elle qui l'a fait construire. Voilà. Donc, alors à l'époque, on est association culturelle de Versailles et de sa région. Alors, on est beaucoup moins organisé que les catholiques. Donc, la région, c'est un peu tout. On imagine que c'est à peu près le département, et ça l'était il y a à peu près, on va dire, une quarantaine d'années. Mais depuis, il y a beaucoup de communautés juives qui se sont constituées dans les Yvelines, d'autres communautés juives. Au départ, c'était la communauté de Versailles qui recouvrait un petit peu tout le monde. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des installations de juifs, nous, on n'est pas comme les catholiques, c'est beaucoup moins hiérarchisé, et n'importe qui peut créer une communauté. D'ailleurs, ma mère avait créé une communauté avec ses amis, qui était la communauté de Morpa, qui est une très belle communauté aussi. Ben voilà, pour nous, on continue un petit peu.
Alors, reste pour les musulmans, loi de 1905 ou loi de 1901 ?
J'allais dire la messe est dite. La question de l'islam, enfin, on peut remonter, selon le professeur Hakoun, bien entendu, même au Moyen-Âge, le lien entre la France et le dossier de l'islam, si vous voulez, puisqu'il y a eu de riches échanges, bien que culturellement, cette mémoire allait quelque peu occultée, mais ce n'est pas grave. Lorsqu'on parle de la loi 1905, il faut aussi avoir un regard, savoir que, par exemple, le lien, pour être plus proche, entre l'islam et la France, c'est de la Deuxième République. Puisque nous avons l'Algérie qui représente trois départements français, donc il y avait un rapport à l'islam. Bien sûr, il y a une différenciation. La deuxième différence, c'est que la mosquée de Paris a été très vite loi 1905, hors toutes les autres associations, qui a eu cette immigration après la Première Guerre mondiale, et les premiers qui se sont sédentarisés ici, du point de vue individuel, et ils ont ramené leur famille petit à petit. Ensuite, il y a eu l'industrialisation de la France, etc. Donc, l'apport des populations essentiellement venues du Maghreb, venues un peu meubler, nourrir la vitalité du pays. Et donc les associations étaient plutôt 1901. Bon, on n'est pas sur le 1905, on est plutôt sur 1901. Petit à petit, en termes de tolérance, dans le 1901, c'est un peu une association mixte, puisqu'on fait du culturel et en même temps du culturel. Donc on ne différenciait pas. Et puis, l'État acceptait cet état de choses. Puis, aujourd'hui, devant une forme de complexité qui est nationale et qui est internationale et qui est mondiale, il faut restructurer un peu tout ça et un peu réorganiser tout ça. Donc il y a eu ce que vous avez entendu parler du CFCM, qui est une première tentative avec des élections, etc., essayer de donner une tête à la représentation musulmane, ça vient, mais on a ressenti qu'il y a de la discontinuité entre la tête et le terrain. C'est pourquoi aujourd'hui, sur un modèle, on fonctionne, et on a la tendance, grâce au FORIF, par l'idée du FORIF, puisque le CFCM aujourd'hui n'a pas l'oreille de l'État et qu'on est plutôt sur une configuration départementale. Nous pouvons dire que le département des Yvelines est un peu à l'avant-garde de ce projet-là, puisqu'on fonctionne sur une représentation départementale, mais on est encore dans un mélange d'associations 1901-1905. La question est... disons, la communauté musulmane s'approprie doucement, parce qu'il faut des accompagnements, il faut des formations. Donc, Jamel est là pour assumer un certain nombre de formations pour expliquer aux représentants des différentes associations. un certain intérêt à basculer de 1901 à 1900. Il n'y a pas de contrainte, mais il y a une incitation de l'État aux associations 1901 qui pratiquent le cultuel à basculer sur 1905. Donc on passe, comme Germain nous l'a enseigné, on passe d'une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire recettes-dépenses, à une comptabilité à partie d'oubli. Voilà. Donc, et ça depuis 2018. Donc la chose se structure, donc on avance petit à petit sur cette formulation. Et je pense que la chose se structure. Alors ce qui est important pour nous, parce qu'on va parler à la suite d'imam, c'est pas le sujet maintenant, mais il est important que nous ayons une structure départementale qui prend à charge la question cultuelle dans son entièreté et que nous puissions mutualiser un certain nombre de choses pour un peu assainir un certain nombre de problèmes. On reviendra après, on va nous poser d'autres questions, donc vous ne devrez pas anticiper. Je vous remercie de votre attention et je salue cette assemblée, puisqu'on est là pour échanger.
Non, mais
t'arrives,
ça va jusqu'à toi.
Hein. Je pense que je vais me mettre spécialement. Et moi, je vais me mettre de l'autre côté.
Non, tu restes là.
Tu te mets là.
Alors, merci d'avoir évoqué ce double aspect cultuel et culturel. Et c'est effectivement fondamental puisque pour l'ensemble des communautés religieuses, nous sommes amenés soit à différencier ces deux éléments, soit à les rapprocher et les fusionner. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir pour les différentes communautés, et je commencerai par la communauté catholique avec vous, Père Alechri, ce que nous aimerions savoir, c'est comment ces communautés sont animées. Par qui? Un clerc? Comment sont désignés, élus, choisis ces leaders, entre guillemets? Et surtout, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pour combien de temps et surtout, lorsqu'ils sont rémunérés, par qui sont-ils rémunérés? Alors, Père Alechri, je vous donne la parole.
Ah, écoutez, bon, c'est long de vous, hein. Elle me titille, hein, elle me cherche. On se connaît tellement bien. Déjà, vous précisez que quand on dit association cultuelle, on a un régime fiscal particulier. Les témoins de Jéhovah sont en cultuel aussi. On est dans un régime particulier sur le plan fiscal, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de taxes sur l'immobilier, sur la construction, et on ne verse pas de TVA sur nos activités et prestations de services, qui sont que des activités cultuelles. Si des groupes chrétiens, catholiques dans la paroisse, a des activités culturelles, là, ça sera pris sous un autre régime, qui est la loi de 1901, s'ils sont organisés suivant la loi de 1901, qui peut exister aussi à l'intérieur des catholiques. Je veux préciser aussi que le mot catholicos, vous entendiez le mot catholique, ça désigne, il faut savoir que les orthodoxes sont catholiques, les protestants sont catholiques, que tout le monde est catholique, c'est-à-dire que tout le monde est universel au niveau de sa relation à Dieu, n'est-ce pas? J'espère que quand je quitte au Moyen-Orient, que les protestants, que les orthodoxes sont catholiques et qu'en France, les catholiques sont orthodoxes. Hein, suivent la ligne droite. Bon. Non, le mot catholique universel, ce n'est pas l'Église romaine. C'est l'ensemble des disciples du Christ. Et du point de vue de l'Église catholique organisation, l'Église particulière confie à un évêque et appelé à vivre pleinement son appartenance à l'Église universelle. Et je signale que dans le droit canon, car effectivement, nous avons un code pour gérer la communauté catholique, ça c'est celui occidental, on a la même chose pour les églises orientales qui ont d'autres intérêts et une autre histoire culturelle, Il faut souligner que l'Église particulière ne vient pas d'une espèce de fragmentation de l'Église universelle et que réciproquement, l'Église universelle ne résulte pas de la somme des Églises particulières. Les Églises particulières se sont formées à l'image de l'Église universelle, c'est en elle et à partir d'elle qu'existe l'Église catholique une et unique. C'est ce qu'a déclaré et rappelé le Concile Vatican II. C'est-à-dire que c'est une communauté qui est dans la communion, en fait, sous la vigilance d'un évêque qui est nommé. Vous savez, on nomme les évêques quand ils ont 50 ans, ils font deux carrières comme les préfets, c'est-à-dire ils font 25 ans jusqu'à 75 ans, ils doivent donner leur démission aujourd'hui. Hein. Alors, l'évêque ne peut pas gérer toute la communauté catholique qui est en Yvelines, vous voyez, mais il en est responsable, à travers des communautés identifiées, qui existent, qu'on appelle communautés paroissiales. Et à Versailles, par exemple, nous avons sept curés, c'est-à-dire sept collaborateurs de l'évêque, qui ont la charge, comme évêque, délégué par l'évêque, en quelque sorte, de gérer dans la foi et la charité la communauté qui lui est confiée sur une parcelle de territoire. À Versailles, c'est les quartiers, à peu près, puisque vous avez une église par quartier qui identifie effectivement cette population. Il y a sept curés à Versailles, c'est donc sept prêtres qui sont curés, ils sont nommés pour 6 ans, ou 9 ans, mais ils ont 6 ans. Ils doivent normalement présenter leur démission, se dire, bon, on fait le point au bout de 6 ans. Ils sont donc responsables, le mot curé, ça veut dire avoir soin d'eux, hein, ça ne veut pas dire chef, hein, c'est avoir soin d'eux, bon. Il y a, pour aider sur Versailles, hein, sur ces 7 communautés paroissiales, il y a donc 7 curés, 18 prêtres vicaires ou au service. Moi, je suis au service, j'ai 79 ans, alors commence à être à la retraite, mais encore un peu actif. Il y a 7 diacres, c'est-à-dire ils font partie du clergé, hommes mariés qui ont la charge de présider des baptêmes, des enterrements, de prêcher, etc. Ils font partie du clergé, ils sont ordonnés à l'Église, comme un prêtre ordonné, comme un évêque ordonné. Ils sont au service de l'Église locale. Là, il y en a 7 sur 65 diacres actuellement dans le diocèse de Versailles. Il y a 65 diacres qui sont au service de nos communautés paroissiales aussi. Souvent, ce sont donc des hommes mariés, mais qui ont encore leur activité professionnelle, en accord avec leurs femmes et leurs enfants. Ils sont ordonnés comme clercs, en quelque sorte. Il y en a 10 de retraités. En plus, dans cette communauté, il y a 21 assistants paroissiaux, des groupes de 4 personnes, moitié hommes, moitié femmes, qui sont le conseil rapproché pour décider de l'orientation de la vie de la communauté de la paroisse. Il faut savoir qu'il y a plus de 8000 fidèles pratiquants à Versailles le dimanche. Et je signale qu'il y a des assemblées d'environ 150 à 800 personnes, 600 personnes. Il faut savoir qu'à Versailles, il y a 38 messes, 38 assemblées avec l'Eucharistie, c'est-à-dire le repas de Jésus, 38 messes par week-end, par dimanche. Et il y en a 14 par jour. Ça veut dire qu'il y a quand même des assemblées nombreuses dans ces lieux que l'on appelle église paroissiale à Versailles. Je ne compte pas les chapelles, la chapelle des Augustines, les EHPAD, les lieux de culte, les communautés religieuses scolaires comme Saint-Jean-Luz. Hein. Autrefois, il y avait 20 chapelles de communautés religieuses dans Versailles. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6. Il y a une chute quand même ou une nouvelle répartition des populations dans la pratique. Aujourd'hui, les gens ne pratiquent pas simplement dans leur quartier. Ils vont bouger. Moi, je rencontre à Notre-Dame, puisque je suis de service à la cathédrale Saint-Louis et à Notre-Dame. Il y a des gens qui viennent de Saint-Antoine-du-Chenet, il y en a qui viennent de Viroflay, il y en a qui viennent de Porchefontaine, j'ai rencontré cette semaine. Donc, les gens bougent, il y a une mobilité. Mais ils vont avoir une paroisse dite d'élection. Il y a bien sûr la proximité dans le quartier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un prêtre pour 12 000 habitants. Entre 12 000 et 20 000, 24 000 habitants, un prêtre peut être curé. Et donc, il y a dans le diocèse 65 postes de curé. c'est-à-dire de responsables qui sont en fait nommés par l'évêque pour avoir cette même vigilance pastorale et l'animation de ces communautés avec les collaborateurs qu'ils peuvent avoir dans leur communauté locale. On en parlera par la suite. Je veux simplement signaler aussi qu'il y a 200 prêtres actuellement dans le diocèse de Versailles. Il y en a 33 qui sont à l'extérieur. Par exemple, il y a un prêtre de Versailles qui est vicaire général adjoint de l'évêque à Oran. Il y en a un autre qui est curé à Bayeux. En fait, on va aussi au service pour être détaché, pour rendre service dans d'autres communautés. Il y a 75 prêtres de moins de 50 ans, ce qui est exceptionnel en France, hein, parce que souvent c'est plutôt de l'autre côté, 75, de mon côté, 75 donc prêtres de moins de 50 ans, 35 de plus de 75 ans. Voilà, à peu près la répartition. Je ne compte pas dans ces prêtres diocésains séculiers ceux qui sont des religieux, jésuites, dominicains, franciscains, que vous pouvez, qui bien sûr relèvent de l'autorité de l'évêque quant à leur activité pastorale, mais qui ont une organisation particulière, et les communautés de femmes aussi. Une supérieure de communauté féminine, ça vaut bien un évêque.
Alors là, la transition, elle va être très brutale, parce que moi, je ne vais pas vous abreuver de statistiques. C'est,
Je fais de l'information. Hein.
Ah bah oui, alors moi, l'information, elle va
est-ce
être...
Est-ce qu'on peut monter fidèle, protestant?
Non, alors, bon, ici, j'ai quelques amis de cette paroisse. Nous avons, chaque dimanche, un seul culte. On n'a pas le choix de l'horaire. C'est... en général le dimanche matin à 10h30. La plupart du temps, c'est au temple rue Hoche, que j'espère beaucoup connaissent, qui est petit. Et une fois par mois, c'est ici, c'est ce qu'on appelle le culte parents-enfants, mais ça doit exister aussi, où il y a tous les enfants du catéchisme, puis il y a les scouts aussi, bon, c'est le scout. Et puis, donc là, on est beaucoup plus nombreux, c'est ici, et après le culte, les enfants vont dans leur groupe de caté. Enfin, ça dépend. Après, on parlera peut-être de la formation des enfants, c'est par tranche d'âge. Bon, donc le pasteur, alors ici il y en a deux en fait, parce qu'on est plutôt, pour vous dire, on est plutôt une grosse communauté, pour vous dire que nous, on est quand même très, très, très minoritaire. On a deux pasteurs. Et ils sont choisis par la communauté. Et en fait, la communauté, c'est l'assemblée des fidèles qui élit un conseil. Alors, chez nous, ça s'appelle le conseil presbytéral. Ici, il y a 12 membres laïcs, plus les deux pasteurs, bien sûr, qui sont membres de droit et qui gèrent la communauté ensemble. Et quand il y a des décisions... Bon, on essaie qu'elle soit consensuelle, mais s'il y a un vote, les pasteurs ont la même voix que chacun des autres membres. Voilà, c'est égalitaire. Il y a beaucoup moins donc de hiérarchie. Bon, ça ne veut pas dire que chaque conseil presbytéral fait ce qu'il veut, parce qu'il y a quand même des instances régionales et nationales. Bon, je ne sais pas, c'est pas le moment d'en parler sans doute, mais bon, les pasteurs, ils sont pour 6 ans normalement. Au bout de 3 ans, il y a un bilan, voilà. Les conseillers presbytéraux, ils sont élus pour 4 ans et ils sont renouvelables 3 fois maximum. Voilà. Bon, ça suffit là.
Quand vous dites les pasteurs, ils...
Ah non, bah oui, vous avez raison. Ils, parce que quand il y a un homme et une femme, et bien en français, on dit ils. Mais ici, on a un homme et
un pasteur. Ça, je l'ai rencontré.
Voilà, ben oui. Bon, alors évidemment, ben, oui, c'est vrai, des pasteurs, chez nous, on a des hommes ou des femmes. Alors ça, par contre, je me suis renseignée que dans l'Église, ça s'appelait à ce moment-là l'Église réformée de France, on a des pasteurs femmes depuis 1966. C'est assez récent, finalement, quand même. Et maintenant, dans le corps pastoral, c'est assez équilibré. Hein. Et puis, bien sûr, non pas bien sûr, mais les pasteurs
ont le droit d'être mariés et d'avoir une famille, des enfants, voilà, que ce soit homme ou femme.
Et comment sont rémunérés les pasteurs?
Ils sont rémunérés au niveau régional. Les paroissiens sont, comme partout, appelés à donner. Alors, chez les catholiques, ça s'appelle le denier du pub. Chez nous, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais on doit alimenter ça parce qu'on n'a pas de subvention de l'État. Ça, c'est justement depuis la loi de 1905. Alors, on en a quand même déguisé en ce sens qu'il y a des reçus fiscaux. Hein. C'est quand même un cadeau, ça. Bon, donc, les pasteurs gagnent tous la même chose. Et ils sont payés par le niveau régional, et chaque paroisse de la région ça s'appelle une cible, doit donner à la région au moins l'équivalent des salaires des pasteurs qu'elle a, ou des pasteurs, et si elle est plutôt favorisée, ben, elle est invitée à donner plus pour aider les paroisses peu nombreuses qui ont du mal à boucler, quoi. Donc, il y a une solidarité régionale. Voilà. Et évidemment, les conseillers presbytéraux, ils sont bénévoles. Et voilà. Alors, vas-y. Après, il y aura d'autres questions, peut-être. Hein. S'il y a des questions.
Le pasteur, il abandonne son métier pendant qu'il est pasteur.
Ah non, c'est son métier.
Ah oui, mais s'il est nommé pour 3 ans ou pour 6 ans.
Ah non, après, il change de paroisse.
Ah d'accord.
Ah oui. Non, il est nommé à vie.
Ah, bon.
Sauf catastrophe.
Mais il a une formation de pasteur.
5 ans plus, alors je pourrais vous détailler
ça. On va parler tout à l'heure.
Voilà, après. Non, c'est parce qu'on ne reste pas.
Alors, on va faire un petit temps de débat après l'intervention de Florence et Mohamed, et puis après on vous donnera la parole pour des questions.
Alors, en ce qui concerne donc la communauté juive, elle fonctionne comme une association tout à fait ordinaire. C'est-à-dire qu'elle a un conseil d'administration. Donc les membres de l'association, c'est-à-dire les fidèles en fait, élisent un conseil et ce conseil élit un président. Voilà.
Qui est laïque.
Voilà. Qui est laïque. Et la communauté, si elle a les moyens, elle embauche un rabbin qu'elle rémunère comme elle le souhaite. Selon ses moyens. Il n'y a pas d'obligation dans la religion juive d'avoir un rabbin. Nous avons un rabbin parce que nous sommes paresseux et que nous préférons déléguer. Mais il y a des communautés qui n'en ont pas, notamment la communauté Morpa dont je parlais, qui n'a pas les moyens. Il y a plusieurs fidèles qui se relayent pour pouvoir assurer les offices. Le rabbin, on va dire, c'est un luxe dans une communauté. Il y a même des communautés qui ont un bedeau qui vient aider le rabbin. Aujourd'hui, on n'en a pas, nous. Alors, comment il est rémunéré? Par la communauté. Quoi d'autre? Alors c'est le rabbin là pour tout à fait de manière tout à fait concrète lorsque nous avons changé de rabbin il y a quelques années, nous avons comme dans un entretien d'embauche normal, nous avons auditionné un certain nombre de candidats, nous avons ouvert les candidatures et nous avons auditionné un certain nombre de candidats rabbins à qui nous avons demandé de venir passer un Shabbat. Et organiser un office pour voir comment il se comportait. Et on nous lui a posé aussi un certain nombre de questions. Alors nous avions, ça se voit pas, mais nous avons rejeté certains qui étaient un peu trop orthodoxes, parce que nous, j'ai jamais entendu, Père Luchry m'a un peu perdu tout à l'heure, je n'avais pas entendu parler de juifs catholiques, mais des juifs orthodoxes, par contre, on en a. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu?
Non, c'est bien, c'est
par contre. La durée, alors, le conseil, c'est. Alors, chez nous, alors, ça dépend des statuts. Hein, c'est, voilà, nous, on a des statuts. Dans le conseil d'administration, on a à la Versailles, donc on est élu pour 6 ans. Je viens d'être réélu il y a 3 jours. Pour 6 ans, et on fait une réélection par moitié tous les 3 ans.
Et combien vous êtes hein?
Et on est au maximum, nos statuts disent au maximum 14, et je crois qu'on est 12 ou 13.
Je te remercie. J'allais dire idem, pratiquement, si on regarde grosso modo. Je tentais de donner la parole à Jérôme, ça va parler plus vite, si vous permettez.
Tu veux ?
Tiens,
bien. Merci. Tu vas debout ? Bonsoir. Bon, je me présente rapidement. Jamel, je suis trésorier au GIP 78 et aussi trésorier à la Maison de Versailles, à la Session des Maisons de Versailles. Qui est une association en 1905, hein, depuis 2012, et qui emploie un imam depuis un certain moment. Et donc, comment est animée cette association? Nous avons un bureau qui est élu par les membres. Hein, on a un nombre de membres restreint parmi les fidèles fondateurs, les fidèles les plus engagés. Voilà, parce que on a conscience que c'est quand même un sacré engagement de venir s'occuper du lieu de culte et de la vie communautaire. Et donc, de ce bureau est élu un. Et il y a un président qui est élu, pour la personne de Mohamed, et c'est le bureau qui désigne l'imam. Donc là, on a la chance d'avoir un imam qui est là depuis plusieurs années, j'ai plus la date en tête, mais qui est rémunéré. Par la mosquée, donc qui officie sur les 5 prières, donc il a un statut de salarié. Et actuellement, comme il est proche de la retraite, il est à temps plein à la mosquée à ce niveau-là. Voilà, par rapport aux questions.
Attends, il y a Jean-Pierre qui voudrait.
Tu veux manger? La communauté musulmane donc de Versailles, bon, historiquement, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale que ça s'est sédentarisé, donc les familles sont venues. Deuxième Guerre mondiale, c'est la deuxième impulsion, donc pareillement, c'est pourquoi nous avons une communauté qui est majoritairement de Lorraine, plutôt. Après, c'est tout le Maghreb, bien entendu, mais en densité, on est plutôt sur la population venue de Lorraine, c'est-à-dire Oran, Bellabès, etc. Toutes ces villes-là, très majoritairement. Il faut savoir que la communauté musulmane de Versailles a produit un commissaire principal à Versailles qui a duré trois mandats, qui est M. Othman Tolba, qui est le père de Nadia.
Mais c'est quoi commissaire principal?
Le commissaire principal à Versailles.
Dans la vie publique?
Oui, oui. Non, c'est juste pour que vous sachiez. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, la population musulmane était plutôt au centre de Versailles. On lui a expliqué qu'il fallait qu'elle soit un peu... qu'elle aille en périphérie. Donc ça s'est produit aussi avec une certaine politique savamment déployée. Mais je dis ça à titre historique. C'est pas pour titiller, mais c'est la réalité historique. Je dis que c'est Versailles. Aujourd'hui, il y a le groupe Versailles, donc le Biroflay, le Chesnay, Vilizy, toutes les villes avoisinantes à peu près. Et le vendredi, on totalise quelques... Puis les fonctionnaires, ceux qui n'habitent pas du tout, qui habitent à Paris, qui travaillent à Versailles. Donc on totalise autour de 700 personnes. Le jour de l'Aïd, on est obligé, la mairie a la gentillesse de nous allouer le gymnase, puisqu'on va doubler l'effectif, on monte à 1200-1400 personnes. Selon que le jour est férié ou ne l'est pas. Voilà. L'association dispense aussi un cours d'arabe, mais aujourd'hui, comme on est passé de 1900 à 1905, c'est l'association Prologue au Dialogue qui assume le cours d'arabe dans les maisons de quartier. Donc c'est un cours d'arabe ouvert à tous, pour ceux qui veulent apprendre. Donc il n'y a pas que des musulmans, très majoritairement musulmans, mais pas que des musulmans. Il y a des gens qui veulent apprendre la langue arabe. On a formé aussi... Lorsqu'on enseignait la langue arabe à la rue Philippe de Dangeau, des cadres qui étaient des architectes, des gendarmes, etc., qui voulaient apprendre la langue arabe. Donc il y avait des adultes aussi qui étaient intéressés par dans mon garde. Comme il l'a dit, l'imam, il est payé exactement comme l'a dit Florence, c'est-à-dire c'est l'association qui estime. La vraie question qui va être après, c'est comment il est choisi, quelles sont les qualifications qui sont les siennes. Et il faut savoir que les gens qui sont venus du Maghreb, c'est un bouillon de culture. Et ce bouillon de culture, il faut savoir un peu faire en sorte que l'unité, c'est donc une des vocations de l'imam, c'est de produire de l'unité. Donc, c'est un peu l'image spirituelle que l'on a d'Abraham, qui lui-même, Dieu, le désigna comme imam. C'est-à-dire, inidia et localinas imam, c'est-à-dire un guide. Donc, derrière le mot imam, c'est quoi? C'est le président de l'association, donc moi, il est imam spirituellement. Il ne va pas guider les prières, bien entendu. Bien qu'il pourrait, s'il le souhaitait, sans interrompre la prière de l'imam, ça, l'écrasante majorité des musulmans ne le savent pas, mais juridiquement, le président peut prendre, poursuivre la prière de l'imam. C'est juste pour montrer que, en fait, dans la fonctionnalité, le président de l'association, s'il a les capacités, ce n'est pas toujours le cas, c'est très rarement le cas, il peut guider. C'est juste pour donner un peu une idée, comprendre comment la chose se constitue. Au niveau du département, donc il y a un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, grâce au CIMI, Conseil des institutions musulmanes de l'Isilien, il y a une mutualisation des savoir-faire, il y a des commissions UAP, parce qu'il y a des constructions, commissions culturelles, commissions, etc., qui viennent un peu permettre à cette communauté, parce qu'il faut aussi retenir une chose qui est essentielle, c'est qu'au début dans l'immigration, bon, on est dans une migration, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas la culture pour pouvoir s'organiser. Aujourd'hui, il y a des étudiants, il y a des chercheurs, etc., qui viennent s'agglomérer à l'association. Et donc, c'est pourquoi on est plutôt dans un vent optimiste d'organisation, puisque puissance intellectuelle étant présente, il y a des médecins, des experts comptables, des avocats, etc., qui viennent nourrir, j'allais dire, les membres de l'association. Donc, c'est pourquoi, disons, on est sur une pente ascendante, avec les optimismes qui sont légitimes, intellectuellement légitimes. Voilà.
Oui, on parlait du traitement. Dans le cadre des communautés paroissiales, les ressources, c'est les donations des fidèles, la quête du dimanche, les dons, les offrandes, tout cela est... et une collecte au niveau du diocèse, c'est-à-dire sur le département, sur l'ensemble des communautés chrétiennes, catholiques, paroissiales du département, ce qu'on appelle le denier du culte, qui avait été institué dans les années 1906-1907, donc après la séparation de l'Église et l'État, puisqu'il n'y avait plus de ressources, puisqu'on n'était plus dans le cadre du concordataire, dans le cadre des services publics de religion. C'était plus religion d'État, mais service public de religion. Et l'Église avait été un peu fonctionnalisée avec Napoléon en 1802, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1790, tout l'apport de la propriété de l'Église catholique est passé à l'État. On ne va pas remonter l'histoire, mais il faut comprendre les racines des communautés pour savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Le mot paroisse désigne effectivement un enracinement sur un territoire, mais aussi un ensemble de croyances identifiant dans une célébration commune. Donc on peut parler d'une paroisse en pensant paroissien, et le mot est un mot grec, paroikos, qui veut dire résident provisoire, habitant de passage. Voilà le mot, un paroissien, c'est un habitant résident de passage. Vous trouvez ce mot en grec dans le texte des disciples d'Emmaüs dans Saint-Luc. Je vous signale pour ceux qui veulent regarder les Écritures. Paroikos, c'est-à-dire résident. Tu es bien un habitant de Jérusalem de passage pour être pas au courant de ce qui est arrivé à ce fameux Jésus.
C'est un appel d'air à l'immigration.
Hein? Ah ouais? Ah oui, mais il ne faut pas oublier, tout ça. Hein? Et effectivement... dans ces paroisses, je vous ai parlé du curé, donc c'est un prêtre, mais c'est pas un hiéros. Il n'y a que Jésus dans la foi que nous avons qui est le grand prêtre, suivant le livre la lettre aux Hébreux de la fin du 1er siècle. Et donc, tous les chrétiens sont des prêtres, prophètes et rois. Les protestants seraient d'accord avec moi. Jésus-Christ, grand prêtre, bien sûr, et effectivement, il va y avoir, près de l'évêque, effectivement, un choix de collaborateurs. Donc, je vous ai dit, ceux qui ont responsabilité de la communauté, il y en a 65 dans le département, 7 dans la ville de Versailles, mais il y a un ensemble, donc, de là, d'hommes qui sont, effectivement, au service de ces communautés, soit vicaires, soit aumôniers, ce qu'on appelle des vicaires. Et c'est-à-dire des auxiliaires, des adjoints. Ils n'ont pas la responsabilité, mais ils ont des fonctions, des services. Puisqu'ils sont prêtres, ils sont comme le curé et comme l'évêque, ils président des assemblées eucharistiques. Le mot presbyteroi vient du mot ancien, et non pas du mot hiéreus, qui désignait les prêtres traditionnels de la religion juive, les Cohen, ou bien dans la tradition égyptienne, culte d'Isis, ou bien dans les temples païens. C'est le mot prêtre. Établi des hommes en responsabilité des communautés, dit saint Paul à son ami Tite en Crète. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville, tu établisses des anciens, comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soient pas accusés d'inconduite ou indisciplinés. Il faut en effet que le responsable de la communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit, malhonnête. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être agréable d'exhorter et être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide. Voilà ce qui est écrit depuis 2000 ans pour le choix de ceux qui veulent responsables de communauté, qu'ils soient épiscopoi ou presbyteroi. Un ancien, c'est-à-dire un sage. Dans la religion druse, c'est à 40 ans qu'on est sage. Parce que c'est à 40 ans, c'est un chiffre symbolique, 40. C'est 40, on est grand-père. Normalement, quand on est grand-père, on est sage. Avant, il faut se méfier, effectivement, des jeunes qui peuvent se monter la tête. Et que ça ne soit pas un converti de fraîche date, de peur que l'orgueil lui tourne dans la tête, il ne vienne à encourir la même condamnation que le diable. Il faut en doute que ceux du dehors rendent de lui un bon témoignage, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre. Tout ça est écrit dans les Écritures, dans la tradition chrétienne, c'est dans la lettre à Timothée. Donc il faut de temps en temps revenir à l'Écriture, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour le traitement, voilà ma feuille de traitement. Un prêtre, donc il y a marqué feuille de traitement, je n'ai pas une feuille de salaire. Tous les prêtres, les 200, l'évêque, le curé ou le vicaire ou le prêtre en EHPAD reçoit le même traitement, le SMIC moins 10%. Donc on est profession libérale en déclaration. Et donc nous avons, par l'association diocésaine, puisque c'est une cultuelle, au niveau des ressources de toutes les communautés paroissiales regroupées au niveau du diocèse où il y a un économat avec 60 personnes à l'évêché qui gère la caisse, et tout ce qui est l'administration de nos communautés catholiques en Yvelines, nous sortons chaque mois, j'ai ma feuille de traitement, voilà. Donc je suis à... SMICAR. Je suis SMICAR. Et puis je paye... Je cotise à la caisse de retraite, et je paye ma mutuelle complémentaire Saint-Martin. Je peux vous donner le prix, là. Puisque je suis président. Je suis président. Je vous donne, c'est 72-18 euros par mois. Je paye, c'est l'association diocésaine qui paye toutes les charges sociales, puisque c'est eux qui est mon employeur en quelque sorte, et qui paye toutes les charges, le CDRS, enfin tous les... Et moi je suis plafonné, et tous les, que ce soit l'évêque, que ce soit un grand prédicateur, le curé ou un vicaire, on a tous le même traitement. Alors, c'est l'association diocésaine. Moi, je suis logé dans un logement, un appartement qui a été donné par une personne qui a été léguée à l'association diocésaine sous condition, c'est un legs affecté, condition de loger un prêtre. Donc, je suis logé dans un appartement qui est un legs que le diocèse ne peut pas vendre, sauf s'il paye les charges. Et je paye 180 euros de loyer pour un grand appartement où je ne paye pas les charges, puisque c'est le diocèse qui paye. En fait, je suis dans un logement de fonction, en quelque sorte. Hein? Mais c'est moi qui me nourris, c'est moi qui paye la voiture, c'est moi qui paye mes assurances, c'est moi qui... Voilà. Et
le traitement augmente en fonction de l'ancienneté?
Non, rien du tout. Tout c'est pareil.
C'est de même, nous, avec l'inflation, ça
pareil. La bouche pour un SMIC, moi...
En tout cas, merci beaucoup pour cette transparence. On va donner la parole...
Je pourrais juste ajouter que les pasteurs, tant qu'ils sont en activité, mais eux, ils sont à la retraite à 65 ans. Et chez les catholiques, c'est 75. Après, ils continuent bénévoles, ils font des intérims. Mais tant qu'ils sont en activité, ils ne payent pas leur logement... ni leur voiture, parce que c'est un instrument de travail, ni peut-être leur ordinateur, voilà. Mais du jour au lendemain, à 65 ans, eh ben, terminé, donc ils doivent se loger, s'acheter une voiture, et...
Alors, je donne la parole à Mohamed, qui va nous dire effectivement ce qu'il en est du traitement des imams, du logement...
Donc, l'imam a un statut de salarié aussi, il a une fiche de paye actuellement. C'est la communauté qui grâce aux dons et aux quêtes, finance son salaire. Donc, comme je l'ai dit, c'est notre imam, il est... Il est arrivé assez tardivement, il est proche de la retraite. Donc, et on ne lui met pas à disposition un logement pour le moment, mais c'est vrai que ça fait partie des réflexions que nous avons pour pouvoir attirer demain.
Notamment pendant le ramadan.
Oui, pendant le ramadan ou même après, parce que la particularité aussi qu'on a par rapport à monsieur le prêtre, c'est que nos imams se marient et des fois ont des très grandes familles. Donc il faut penser, nous notre réflexion c'est cela, c'est de se dire comment offrir un logement décent pour pouvoir attirer un imam qui viendrait à Versailles. Déjà à Versailles, on pourra lui offrir un cadre sympathique, verdoyant, avec un niveau de scolarité intéressant pour ses enfants, un niveau de salaire intéressant, et si on pouvait agrémenter cela avec un logement... Donc c'est vraiment une vraie réflexion, mais comme l'a dit Mohamed, il faut partir du principe où les associations musulmanes en général ont été créées que très récemment. On est très jeune, hein. Il faut savoir que la plupart des associations musulmanes se sont créées grâce à une initiative de Mitterrand en 81, avec l'autorisation aux étrangers de pouvoir s'associer et créer des associations. Il a abrogé pas mal de textes qui interdisaient aux étrangers en 81 la possibilité de créer des associations. Donc les associations ont été musulmanes, se sont créées beaucoup dans les années 80 par biais d'amicales et ont au départ réuni souvent des communautés par pays, des amicales d'Algériens, de Marocains, etc. Et après, l'engouement religieux a fait que ces associations se sont occupées plus du cultuel et se sont spécialisées, comme la loi en plus les oblige. Et donc, on est quand même une communauté récente. Hein. On est quand même une communauté récente. Et vous parliez du financement des églises grâce aux dons, aux legs. Jeune communauté, on espère que plus tard, on pourra contribuer aussi et que nos fidèles pourront contribuer pour pouvoir avoir le minimum de patrimoine pour assurer un fonctionnement normal. Et donc ça fait partie de nos réflexions. Donc là, c'est des perspectives d'avenir. Mais bon, c'est un combat.
Alors, tu donnes la parole à Florence qui va nous expliquer aussi pour les rabbins.
Alors, pour le rabbin,
quelques mots et ensuite,
en deux mots, donc il est rémunéré par la communauté. Il a un contrat de travail, il n'y a pas de traitement, c'est la communauté qui décide avec lui le salaire qu'on va lui donner, comme dans n'importe quelle entreprise, entre guillemets, qui choisirait quelqu'un. À Versailles, on a la chance d'avoir un appartement, de pouvoir lui offrir un appartement de fonction, ce qui n'est pas le cas partout, bien sûr, hein, puisqu'il y a quand même un bel appartement, mini-immeuble à côté, et donc il a un très bel appartement, il a 4 enfants, il arrive à les loger dans cet appartement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur
à quel âge il prend sa retraite, lui?
Alors, comme un salarié, il est exactement, il est dans la même, il est vraiment traité comme une personne de droit privé, en fait. Donc là, il a un logement de fonction. On peut lui offrir ce logement de fonction, et pour nous c'est important parce que le rabbin, notamment à Chalak, ne peut pas se déplacer, il ne peut pas prendre sa voiture, donc c'est important qu'il soit juste à côté. Son fils commence le matin assez tôt, puisqu'il y a toujours un office tous les matins, je crois qu'il commence à 7h, les gens viennent avant de partir au travail, donc c'est bien qu'il soit sur place. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Florence. Il y a des questions dans la salle.
Je voudrais juste rajouter un point qui est un essentiel, en fait. Le problème qui se pose pour la communauté musulmane, c'est justement la formation de l'imam. Puisque en France, si on est dans la communauté juive ou chrétienne, il y a quand même la culture française qui est là à l'esprit, et donc on fonctionne avec ça. Concernant la communauté musulmane, justement...
Est-ce que là on entend?
Oui.
Alors peut-être on peut passer celui-là.
C'est moi,
mais c'est pas le micro. Non, mais vous pouvez parler assez fort, c'est pas le national.
C'est
pas ce que
je suis
dit.
Est-ce que vous avez des
questions?
Une question, mais peut-être hors sujet. J'ai une femme de ménage d'origine turque qui pratique le ramadan, qui est musulmane. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle allait prier. Elle m'a dit oh non, je vais pas chez à la mosquée, parce que non, il n'y a que des Algériens, c'est pas ma communauté, parce que c'est pas le cas. Donc vous avez dit que c'était beaucoup de Maghreb, mais les autres là, ceux qui viennent. Elle vient de Turquie et elle fait ses prières toute seule. Hein. Et vous cherchez à avoir une communauté qui rassemble, comme nous chez les catholiques, on essaie de ratisser le maximum, ou comment les communautés s'organisent? Parce que manifestement, c'est géographique, enfin, de ce que je vois.
Merci.
Je
réponds tout de suite.
Bien entendu, comme j'ai dit, mais on m'a interrompu, mais c'est la règle du jeu, j'ai l'habitude.
Pardon, c'est de ma faute.
Voilà. La communauté musulmane qui est présente ici, c'est un peu un bouillon de culture. Même ceux en Algérie, tout le monde a... Dans les pays musulmans, vous avez un ministère des Affaires religieuses, et tout est structuré, la formation des imams, leur salaire, il y a l'imam qui fait les 5 prières, l'imam qui fait les prêches, et l'imam moufti, l'imam de région, etc., etc. Donc... la structure, elle existe dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on est en France, on est dans une espèce d'imam à échelle variable, à géométrie variable. Parce qu'il y a des imams d'abord autoprogrammés, proclamés, c'est-à-dire ils ont mémorisé le Coran, ils pensent que cela suffit. C'est un critère de nécessité. En fait, c'est un critère de nécessité, mais de total non suffisance, puisque toute la formation essentielle, ils ne l'ont pas, pour une bonne partie. Alors maintenant, pour répondre à votre question, parce que je ne vais pas développer avant le temps russe, mais j'ai été obligé de faire ce préalable, la communauté turque, il y a quelques mosquées turques. Il y a à Trappes, il y a une mosquée turque, Carrière sous Poissy, il y a une autre mosquée turque, etc. Mais le prêche en français, le prêche à Versailles, est très majoritairement en français. Donc si cette femme, c'est pour ça qu'on parle en français, puisque le verset coranique, il dit « tu t'adresses au peuple avec la langue qu'il maîtrise ». D'accord ? Donc le problème, ce n'est pas une question d'Algérien, puisque dans la mosquée, il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, et de toutes les communautés africaines, il y a les îles, il y a tout le monde. Donc elle s'est fait peut-être une idée, ça peut arriver, que quelqu'un se fasse une certaine idée et ne va pas dans telle mosquée. Nous, on efface cette idée de la mosquée. Quand on rentre dans une mosquée, on n'est ni turc, ni algérien, ni rien. On est musulman, puis on oublie tout le reste. On est français si on veut, puisqu'on est en France quand même. On est français, pour le reste, on oublie. Donc, il y a des choses, justement, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qui permet, c'est un peu la philosophie de la vision du Simi concernant les questions de cet ordre-là.
Je voudrais juste raconter une blague juive. Il y a une blague juive qui raconte que monsieur s'est retrouvé sur une île déserte, et là, il a construit deux synagogues. Il a construit. Pourquoi tu es tout seul sur l'île déserte? Pourquoi tu as construit deux synagogues? Alors j'ai construit une synagogue là où je vais, et j'ai construit la synagogue où je n'irai jamais.
Je voudrais revenir sur les deux associations dont on a parlé, l'association 1901, l'association 1905. Dont les différences sont de l'ordre financier en particulier. Mais dans ces associations, comme toute association française, il y a élection par les membres d'un conseil d'administration et d'un président, à des durées variables fixées par les statuts. Quand le Vatican a signé avec l'Église catholique en 24, je crois, les États, le Vatican et l'État ont repris l'angle en 1924, ça n'a été ni l'association de 1901 ni l'association de 1905. Et en regardant un peu la question, j'ai aperçu que l'association diocésaine, il y avait certes un président, l'évêque, conseil d'administration, je ne sais pas très bien qui est le conseil d'administration, mais aucune élection là-dedans. L'évêque est désigné une fois pour toutes par le pape avec l'agrément de l'État français, plus ou moins définitivement. Donc, il n'y a pas du tout ce système d'élection qu'il y a dans les autres communautés. Je trouve que c'est une différence importante entre les catholiques avec les protestants, les musulmans et les juifs ici en France.
Effectivement, c'était le problème, c'est que le président de la communauté chrétienne catholique n'est pas issu de l'élection ou d'un débat entre simplement des gens qui pratiquent. Parce qu'autrefois, dans le système concordataire, enfin, à l'époque plutôt avant le concordat de Napoléon, dans le système de l'Église constitutionnelle, c'était les grands électeurs qui élisaient le préfet et qui élisaient l'évêque. Et il y avait un problème, c'est-à-dire que dans les électeurs, il y en a qui étaient croyants et n'étaient pas croyants. Le problème, c'est effectivement la communion des croyants. Et effectivement, c'est que l'évêque est garant de la communion entre tous les évêques, puisque c'est ce pape, l'évêque de Rome, qui fait le signe de la communion. Ce qui fait qu'à chacune des messes, je dis le nom de l'évêque et le nom du pape, effectivement, pour montrer que nous sommes dans une communion. C'est d'abord une communion, être chrétien. Le problème, c'est qu'effectivement, puisqu'on est sur un fonctionnement d'association diocésaine, avec comme président reconnu par le gouvernement, qui est nommé par une puissance étrangère, qui est le Vatican, parce que le problème, c'était ça. C'est pour ça que ça passe par le contrôle du ministère des Affaires étrangères, ensuite du ministère de l'Intérieur, pour savoir si le prêtre français qu'on va choisir comme évêque, il n'a pas des casseroles au cul. Bon, enfin, bon, donc, là, donc, quand l'économe diocésain, c'est un général par le sujet, un économe diocésain, plus tout le service de l'économe, il y a plus de 40 personnes au niveau du diocèse, qui récapitule ce qui est fait dans chaque paroisse, avec un économe, avec des gestionnaires, avec les conseillers paroissiaux qui sont là, hein, qui gèrent et qui vérifient tous les comptes. Tout cela est rassemblé et c'est présenté dans une assemblée, dont j'ai fait partie, où il y a des délégués des différentes paroisses, des différentes communautés paroissiales, particulièrement les économes de ces communautés paroissiales, qui sont désignés sur un choix au sein de la communauté restreinte, effectivement, autour du curé qui est en charge et des vicaires qui sont en charge de la paroisse. Ce problème de l'élection, ça se pose, effectivement. Il faut savoir qu'auprès de l'évêque qui a un conseil de 6 prêtres plus 4 laïcs, dont 3 femmes, qui se réunissent toutes les semaines. Ils se réunissent toutes les semaines. 4 laïcs, donc un homme, 3 femmes, 6 prêtres, vicaires généraux, vicaires épiscopaux, l'évêque, pour savoir au niveau du diocèse. Et quand il y a un problème qui se pose sur l'ensemble du département. Il y a auprès de l'évêque, il est obligé d'avoir le conseil de 14 prêtres qui sont élus par vote secret. Je fais vote sous 2 enveloppes. Les 200 prêtres sont invités à désigner 14 prêtres qui constituent le Sénat, en quelque sorte, de l'Église catholique. Et l'évêque est obligé de tenir compte des avis de ces 14 prêtres qui sont nommés pour 3 ans. J'ai fait partie plusieurs fois de ce conseil presbytéral. L'évêque est obligé d'avoir ce qu'on appelle un conseil de consulteurs. Parmi ces 14 prêtres qui sont en fonction de conseil de vigilance et qui sont élus par vote secret, hein, par l'ensemble des prêtres. Là, ce n'est pas les communautés de l'ensemble des chrétiens, hein, puisque les gens qui votent aussi dans les paroisses pour avoir des assistants paroissiaux, on ne va pas leur demander s'ils ont un certificat de baptême. On fait passer les crayons, on fait passer les papiers, et puis ils désignent les gens qui a été proposé par l'équipe précédente, en disant, ben voilà, il y a 12 personnes, il faut en choisir 8, donner des noms. Puis on tire au sort, là. Pas au sort, mais au choix des fidèles. Et ce qui fait que le conseil des consulteurs, qui est élu par 5 ans, est obligé d'être constitué par l'évêque qui doit prendre une décision, mais c'est comme tout président dans une association, quand ça touche des constructions, des déplacements de prêtres, des créations ou de suppressions de paroisses, des dépenses de 200 000 euros. 300. J'ai fait partie du conseil des consulteurs. Il faut savoir que c'est ce conseil des 5 prêtres qui sont habilités à recevoir la nomination d'un évêque ou de ne pas la recevoir. Et moi, je fais partie du chapitre de la cathédrale, des 8 prêtres, qui ouvrent la porte de la cathédrale quand l'évêque est nommé par le pape. Mais j'ouvre la porte que si il monte pas de planche et qu'il a toutes les autorisations en lien avec Rome. Hein. Donc il y a effectivement tout un système, c'est pas de la hiérarchie de pouvoir, c'est un réseau de communion pour éviter que tout le monde fasse n'importe quoi, n'importe comment, et surtout à son propre profit. Le souci est toujours la charge de la communion dans la foi. Alors effectivement, il faut qu'il y ait des pondérations et des régulations. S'il y a un conflit entre curé et vicaire, il y a 3 prêtres qui sont chargés qui ont été désignés pour arbitrer les conflits, hein, avant que ça remonte en juridictionnel. Et donc on a un système de régulation, de contrôle.
Est-ce que c'est pas un système un peu
opaque? Ah non, du tout. Tout ça est
connu par le commun des mortels.
Oui, bah, tout c'est là-dedans. Vous voyez, chaque année, vous avez l'annuaire du diocèse, vous avez le nom de toutes les personnes, de toutes les responsabilités, de tous les lieux. Donc tout est là. Et les comptes sont publiés. et tous les responsables, ça s'appelle l'annuaire de César, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Qui fait quoi? Donc tout est public.
Peut-être une dernière question et puis on passe après avec deux autres thèmes qui sont
très liés. Je crois Rachida.
Alors, Rachida, on a un droit de réponse.
Juste une question si elle ne pose pas sa question.
Moi,
j'avais juste une question sur la différence entre la profession libérale et salariée. Dans l'Église catholique, on sera en profession libérale et partout ailleurs, ce serait des contrats de salariés. Bon, je sais pas,
je suis comme un dentiste, moi, au niveau de la déclaration. Mais je suis plafonné à mon SMIC à moins 10%.
Vous savez pourquoi? Non.
Parce que l'évêque n'est pas notre employeur. Il me donne une activité, mais il n'est pas le patron, même si on le voit comme un patron.
Vous êtes quand même salarié de la DB.
Ah oui, je suis salarié de la DB. Je vous ai montré mon bulletin de traitement. Il y a marqué traitement de traitement.
Non, c'est pas pareil.
Jamais facile. Non, mais il y a toute une distinction à faire par rapport aux liens de subordination à le pasteur, l'imam ou le prêtre, n'a pas d'employeur. Il est là pour servir un message, il est là pour apporter un savoir, donc qu'il soit rémunéré au niveau régional ou par la paroisse. Est quand même celui qui, en termes religieux, va pouvoir apporter une parole. Donc il ne faut pas qu'il ait un lien de subordination avec les fidèles qui va accompagner. Donc on peut assimiler un salaire avec une fiche de paye au niveau de son salaire. Et donc dans les deux cas, qu'il soit profession libérale ou salarié, il va cotiser la même caisse et qui est la caisse BIMAC et qui est la caisse de retraite des ministres de culte.
Ah oui. Voilà.
On est dans le même régime.
Voilà.
Juste une question, monsieur Adam. Ce n'est pas pour taquiner, mais c'est juste parce qu'on est sur la dimension. C'est une question que je pose. Oui. Voilà. C'est pour. L'évêque, il est vrai qu'il vous montre pas patte blanche au moment où il va prendre ses fonctions, avec tous les papiers. Bon, voilà. Mais en réalité. Une fois qu'il a pris ses fonctions, vous dites, voilà, il y a une équipe autour de lui et qu'il doit en tenir compte. Ça, c'est très bien, on a bien compris, ils sont votés, il y a eu un vote, etc. Ça donne un crédit un peu, une espèce de démocratie au sein de la foi, on va dire. Mais si l'évêque, leur prête bonne oreille, il les écoute, il peut aussi ne pas les écouter. Ça fait partie de ses prérogatives. Voilà. C'est quelque part, ce que vous dites là, quelque part chez les musulmans, normalement, lorsqu'on élit un président, c'est-à-dire un représentant spirituel, je ne parle pas un président d'association, spirituellement, il doit consulter, il doit écouter, se nourrir des avis des uns et des autres, mais puisqu'on lui a porté la charge, normalement c'est lui qui tranche, c'est lui qui donne son avis. Par contre, il se nourrit des réflexions de son entourage, bien entendu. Aujourd'hui, les musulmans ne fonctionnent pas comme ça. Ils disent, on va faire un vote, le président il a une voix, les autres ont une voix, c'est pareil. Il est président, mais il a certaines prérogatives, mais au niveau décisionnel, c'est le vote qui va primer. Or, normalement, spirituellement, si on avance dans la spiritualité, si elle avait avancé, normalement, celui qui est représentant spirituel, c'est lui qui a ses prérogatives. Les gens qui l'entourent sont là pour nourrir sa réflexion. Si on n'est pas content de lui, par contre là, il faut avoir les capacités, on peut le révoquer. Mais si on a voté, on l'a choisi, il faut lui donner les prérogatives dont il a besoin pour mener à bien la mission qui est la sienne.
Là, je vous rejoins. Moi, je rejoins tout à fait ce Kéroubi. Je vous rejoins tout à fait. Quand un évêque ordonne un prêtre, un jeune ou quelqu'un plus âgé comme prêtre, je dis, est-ce que vous me promettez obéissance à moi et à mes successeurs? Je fais partie du corps, moi,
du diocèse de Versailles, hein, du diocèse.
On change pas.
Non, on change pas. Je suis prêtre du diocèse de Versailles, prêtre pour l'Église universelle, catholique dans le monde, mais je peux, il faut que je reste comme dans l'ordre des médecins pour exercer dans ce corps qu'on appelle le presbytérium de Versailles. Et pour avoir une activité de culte public, il faut que j'ai une juridiction comme les juristes pour avoir la possibilité d'y faire un baptême ou un mariage. Bien, si je ne suis pas le curé du lieu ou de cette communauté, donc j'ai un pouvoir de délégation. Il faut savoir que l'évêque, effectivement, c'est lui qui a le mot, parce qu'il est, sur le plan spirituel, le garant de cette communion. Après avoir entendu des avis, il peut décider autrement que les avis de ses mêmes proches conseillers, mais en fait, il tient compte de ses avis. Et c'est lui qui va faire que la communauté ne va pas se disperser en progressiste et en intégriste. Et ceci est vrai au sein de la communauté paroissiale locale, quand c'est le curé. J'ai refusé d'avoir le droit de veto quand j'étais curé, parce que j'étais 4 fois curé de différentes communautés. J'ai refusé le droit de veto, c'est-à-dire de m'opposer à une décision que voulait majoritaire d'un conseil. Parce que j'ai dit, il faut que ça soit plutôt un avis éclairé que vous allez me donner. Et s'il n'y a pas une cohérence, si on va se disputer encore, eh bien on va prendre le temps du mûrissement de la décision. Vous voyez ? Mais je suis comme curé, comme l'évêque, je suis garant, effectivement, de la décision prise et qui est portée par tous. Il n'y a pas de minorité et de majorité. Vous voyez ? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est vraiment la démarche spirituelle qui prévaut avant toute chose sur le plan de l'organisation.
Juste, j'apporterai, on se rejoint, mais j'apporterai...
Oui, je pense que vous rejoignez.
Non, mais c'est parce qu'on parle... On a parlé de 1901-1905, je pensais qu'on faisait du droit, alors que non, il y a quand même la dimension spirituelle qui doit prévaloir dans l'assise qui est la nôtre. Je veux dire, juste à une nuance près, c'est que celui qui est le représentant spirituel, s'il émet un avis contre le groupe qui lui ont fait des propositions, à ce moment-là, je parle plus bon, donc s'il émet un avis, et si cet avis trouve dans la législation musulmane une contradiction, ils ont le droit de s'opposer à lui. Exemple. Il y a un grand imam qui était en France, début 1900, qui s'appelle Cheikh Abdou, qui a fait la Sorbonne, et qui est devenu le maître de l'Azhar par la suite. Et il avait un ami qui était chrétien, et il est parti à Saint-Germain, avec une petite salle de prière, et il entre, je dis ça parce que j'avais corrigé la thèse de quelqu'un qui avait écrit une thèse sur Cheikh Abdou. Donc il rentre dans la salle et lui dit, je vais te montrer quelque chose. Alors les gens le connaissant, le cheikh Al-Azhar, le maître de Al-Azhar et tout, il était une éminence de l'époque. Et les gens lui demandent de guider la prière, et lui, il fait des erreurs, mais préméditées. Il fait des erreurs, il le corrige. Ils ont failli le frapper. Il voulait juste dire qu'ils ne suivent pas systématiquement. Tant qu'il est conforme à ce que eux connaissent, etc. C'est pour ça qu'un imam, quand il va dans une mosquée, par exemple, si, vous savez, il y a des variantes. Quand je rentre dans une mosquée et qu'il y a la variante qui est la mienne n'est pas celle qui est retenue, je dois avoir l'intelligence de décliner ma variante pour préserver exactement ce qu'il vient de dire, l'unité. Parce que tout le monde n'est pas en capacité de comprendre la raison de ma distinction par rapport à ce qui est usuellement pratiqué. Ouais. Donc c'est pourquoi, quand je dis qu'il y a une formation d'imam qui est complexe à mettre en place, elle est possible en France, c'est parce qu'on est dans une histoire de bouillante culture. Il faut que les gens s'élèvent dans ce qu'on appelle la jurisprudence comparée pour que nous puissions produire une unité à un moment ou à un autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'unité. Ce n'est que des choses périphériques, mais pour l'intelligence de la masse, il faut faire, faut élever le niveau.
C'est une excellente transition, Mohamed.
puisque d'une part avec la réflexion de madame, et d'autre part sur l'avant-dernier sujet qui nous reste à traiter, celui de la formation des clercs. Je te donne la parole pour la formation des imams, puisque tu as commencé.
Donc aujourd'hui, bien sûr, la formation des imams, elle est au centre des discussions qui sont les nôtres, dans la mesure où, en 2023, l'État, on n'a plus le droit de ramener des imams, ceux qui soient d'Algérie, de Tunisie, du Maroc ou de Turquie. Donc aujourd'hui, il faut que ce soit une production locale. Une production locale, elle est complexe parce que l'entité qui est à même à porter le projet, elle doit être pensée dans tous les calculs qui sont faits à l'échelle du département. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une structure à l'échelle du département, et c'est une bonne chose qui, elle, doit héberger l'imam. Héberger, pas, elle héberge du point de vue. Elle héberge son statut. C'est-à-dire que c'est elle qui doit le financer, et c'est elle qui doit concourir à sa formation, et une formation, c'est-à-dire une certificative, c'est-à-dire. Il sera payé en fonction des certifications qui sont les siennes. D'où, il y a quelques idées qui fusent, c'est-à-dire qu'il faudrait que cette caisse-là, c'est elle qui rémunère les maires. Du coup, il devient véritablement ministre du culte, puisqu'il ne dépend pas de l'association dans laquelle il officie, mais il peut aussi être ambulant. Donc il faut qu'il y ait une formation continue, où il y a bien sûr des sciences religieuses qui sont scellées, mais aussi ce qu'on appelle la formation profane, dans le but de lui donner une culture française et de faire en sorte que cet ensemble, ce personnel-là, s'entreconnaît, mutualise les approches et ça va homogénéiser les choses. Pourquoi on dit ça? Parce que vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux et chacun s'alimente comme il peut. Donc il faut aujourd'hui tendre vers une formation qui va unir un peu la chose et qui soit conforme aux attentes, c'est-à-dire, qui s'éloigne du séparatisme, donc en parfait respect avec les principes de la République. Donc ça, c'est une attention qui est grande, qui est forte, à laquelle tout le monde adhère, mais bien entendu, c'est très exigeant. Jamais il y a quelques propositions ailleurs, il y a d'autres, donc on va essayer d'avancer de la manière la meilleure.
En ce qui concerne les rabbins, on a un petit peu d'avance sur vous, puisque nous avons à Paris un séminaire israélite de France qui forme les rabbins en 5 ans. Voilà, donc c'est un institut de formation. À l'issue de ça, ils sortent rabbins et ils sont, je crois qu'il y a pour projet, je ne sais pas si c'est. Non, mais je crois que c'est déjà fait. Ils doivent aller en province, ils doivent aller à la rencontre des communautés de province, ils doivent avoir un certain nombre d'années en province, à nous dire, les communautés ici. Peut-être Sauveur, on connaît un peu plus sur le séminaire israélite de France, mais je sais que la plupart des rabbins, en tout cas les rabbins consistoriaux, sont généralement ici du séminaire israélite.
Ça ressemble un peu chez les protestants à la formation des rabbins pour les pasteurs, donc hommes et femmes. C'est au niveau national. Il y a ce qu'on appelle l'Institut protestant de théologie, où il y a en fait trois sites en France, un à Paris, boulevard Arago, un à Montpellier, et puis il y a aussi à Strasbourg, enfin c'est un peu différent, là c'est avec le Concordat, mais la formation, elle dure 5 ans aussi, ça correspond 3 ans de licence et 2 ans de master, et la cinquième année, donc la deuxième année du master, c'est en stage dans une paroisse, pas encore en responsabilité, mais pour compléter plus pratique. Ensuite, tout au long, il y a un suivi par un organe, c'est national toujours, qui s'appelle la commission des ministères, qui est formée de pasteurs et de laïcs, et qui suit un peu les étudiants. Alors, ils peuvent aussi aller à l'Institut protestant de théologie sans forcément avoir un projet de pastoral. Mais s'ils veulent se diriger vers ce ministère, après les 5 années, ils doivent accomplir ce qu'on appelle un proposana de 2 ans, qui est en fait, du coup, un paroisse. Et bon, idéalement, ça ne serait pas tout seul en paroisse, ils sont débutants, mais souvent, comme il n'y a pas assez de pasteurs, il y a des paroisses qui, sans pasteur qui accueillent des proposants et qui, évidemment, puis il y a le proposant, il a aussi un répondant, enfin, il est coaché, il n'est pas laissé tout seul. Et là, c'est pareil. Alors, au bout d'un an de proposana, il y a de nouveau un entretien avec la commission des ministères au sein de cette paroisse, et puis après, donc ça ferait 7 ans, si tout va bien, il est ce qu'on appelle nous inscrit au rôle, ça veut dire il est nommé pasteur de l'église protestante, et après il y a un rituel bien sûr liturgique de, alors nous on n'appelle pas ça ordination, mais après ça c'est appelé consécration, maintenant ça s'appelle reconnaissance du ministère, mais enfin bon, c'est son engagement liturgique officiel et qui est normalement à vie.
Pour donner un tableau un peu plus complet, j'ai parlé de la perspective, mais il y a un existant. La mosquée de Paris, effectivement, forme les imams. Elle salarie les imams qu'elle a fait. Sauf qu'à partir de 2023, c'est la fin de la récréation. Ça n'existe plus. Donc elle n'aura plus accès. Parce que qu'est-ce qu'elle fait ? Tous les mosquées qui sont affiliées à la mosquée de Paris sont affiliées parce que la mosquée de Paris salarie l'imam. Après le moment où c'est fini, puis il y a le château Chinon, mais on n'a pas trop regardé dans cette direction. Donc pour la mosquée de Paris, il y a dans la formation, il y a un accord avec l'Institut catholique pour tout ce qui est profane, etc. Donc il y a une formation qui est faite en alliance avec l'Institut catholique pour toutes les autres formations. Sinon, au sein même de la mosquée de Paris, dans les formations, il y a une annexe qui est au bureau où on forme aussi les aumôniers. Donc il y a eu déjà une promotion de diplômante à laquelle le préfet des Yvelines a assisté, puisqu'il a été invité à la sortie de cette promotion au sein du département des Yvelines. Cela dit, lorsqu'un imam est formé, il ne fallait pas dire qu'il aura une mosquée. Il n'est pas affecté. Donc le problème est, il faut qu'il y ait une adéquation entre la formation et le lieu d'affectation. D'où la nécessité de la prise en charge du département sur la formation, qu'elle soit nationale, qu'elle soit départementale, mais il faut que le département prenne en charge la formation de manière à ce qu'il y ait une adéquation entre la formation et le lieu d'affectation. Sinon, les gens ils vont dire, on va se former pourquoi ? Ensuite, les gens qui sont formés, quand ils allaient dans les mosquées, ils sentent qu'il y a un delta, c'est-à-dire il y a une différenciation entre ce que leur idéal et le lieu où ils vont exercer et les conditions avec lesquelles ils vont exercer. Tout cela, dans le cadre d'une solution départementale, doit être traité. On doit prendre le pacte dans son entièreté, c'est-à-dire le lieu, la mobilité de l'imam, parce qu'il peut bouger d'une mosquée à une autre, donc, au sein du département ou au sein c'est-à-dire de l'hexagone, etc. Donc ces questions-là, il faut nécessairement apporter très rapidement des réponses si on veut que ça se passe bien.
Il y a à peu près 35 jeunes séminaristes entre 20 ans et 35 ans. Ils ont 6 ans de formation. Il y a un cursus de formation qui est pensé pour tous les séminaires au moins occidentaux, d'Europe occidentale. Il faut faire une année de discernement, c'est-à-dire une sorte de propédeutique qui se fait à Versailles, dans l'ancienne couvent des Capucins, relié par les Clagny, vous connaissez peut-être par là. Et puis ensuite, ils font une formation de 2 ans, 3 ans, plutôt philo, avec effectivement des initiations en matière biblique. Et puis ensuite, ils vont faire de la théologie, soit à l'Institut catholique de Paris, en faisant partie en fait d'une communauté d'étudiants, tout en suivant des cours à la Cato, dans des différentes facultés, ou bien au Bernardin, puisque c'était une école aussi de théologie au Bernardin, vous en avez entendu peut-être parler, pour la ville de Paris, et puis c'est ouvert à beaucoup de laïcs, il y a des prêtres bien sûr, parce que la formation est donnée dans nos universités pour une majorité de laïcs. Au début c'était pour les séminaristes, pour ceux qui allaient être pasteurs, enfin prêtres. Maintenant c'est essentiellement laïcs et une majorité de femmes. Ça se féminise aussi. On a des théologiennes, femmes, qui ont des responsabilités de parole dans l'église. Et donc, ou bien ils vont au centre Sèvres des Jésuites, que vous connaissez peut-être à côté du Beaumarchais, ou bien au studium d'études qui est tenu par des carmes à Vénasque, dans le sud de la France, ou bien à Rome, à l'Institut Grégorien. Là aussi, à Rome, vous avez un séminaire français pour les séminaristes qui viennent des différents diocèses de France, pour être en foyer d'étudiants, mais ils vont suivre des cours à l'Angelicum, à la Grégorienne, qui est essentiellement tenue par des enseignants jésuites, mais autres. Et il faut savoir aussi que dans les séminaires maintenant, les professeurs, les enseignants sont bien sûr des prêtres, mais aussi des femmes et des laïcs, enfin des femmes et des laïcs hommes, suivant leurs compétences, en histoire de l'Église, en histoire de liturgie, en histoire ou en sexualité, enfin en psychologie, etc. Donc les jeunes rencontrent des gens de différentes disciplines et ils sont appelés dans leur bout d'un cursus de 6 ans, 7 ans d'études. Il faut savoir qu'ils viennent tous avec le bac quand même. Moi, je suis rentré au séminaire avec le bac, mais on n'était pas très nombreux à rentrer avec le bac. Surtout, je venais de l'école publique, je n'ai pas d'une école religieuse. Et donc, Versaillais, hein, je signale, hein, Versaillais. Et donc, là, je veux dire que beaucoup viennent déjà ayant fait des études de 2 ans, 3 ans, pour, hein, même certains avec la licence. Il y a un curé, par exemple, à Versailles, qui est médecin, mais qui n'exerce pas son activité de médecin. D'autres étaient docteurs en pharmacie. Il y en a un qui était prêtre ouvrier, qui était professeur à... qui était un copain, qui était professeur à Jules Ferry, à l'école technique. Je suis passé par Jules Ferry, moi, pour... Mais au lieu d'aller aux arts, je suis parti chez les curés. Donc, vous voyez, on peut avoir la vocation à n'importe quel âge. Et après, n'importe quel parcours, quand même, hein, il faut quand même vérifier. Mais les séminaristes sont invités, comme venait dire Ariane, à faire des stages en paroisse. Hein, stages en paroisse, un ou deux endroits dans des communautés paroissiales. Et il faut savoir que lorsqu'ils sont appelés pour être prêtres par l'évêque, on demandera l'avis des paroissiens. Des paroissiens dans lesquels ils sont, du curé bien sûr qui est responsable de son stage, moi j'ai été consulté plusieurs fois, et puis des professeurs ou des gens qu'il fréquente. Hein, on n'ordonne pas comme ça parce qu'il a fini ses études. Il faut qu'il y ait un travail de discernement pour savoir the right time, the right place. Hein. C'est pas toujours facile. Et surtout, qu'il faut savoir aujourd'hui, quand on a la vocation, comme on dit, il faut savoir durer. Vous voyez ? Je parle, bon entendeur, salut. Je dure.
Il faut parler des femmes un peu.
Encore une très belle transition. Vous avez parlé de la féminisation au sein de l'Église. Et bien c'est des femmes qu'on va parler un peu. Au sein de l'Église. Auprès des protestants, des juifs et des musulmans. Alors je vais restreindre le sujet, je dirais, au clair. Des femmes prêtres, à ma connaissance, ça n'existe pas.
Pas dans l'église romaine.
Voilà. Des femmes pasteurs, ça existe.
Oh, oui. Ben depuis 66.
Des femmes imams, ça commence, c'est timide. Vous me direz ce que vous en pensez. Des femmes rabbins, ça existe aussi, mais tu préciseras dans quel cadre. Voilà. on sait tous ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui... Bon. Ce que je voudrais, c'est avoir votre opinion. Ça, c'est
un métier personnel. Bon, pas le groupe Jean-Pierre. Non, il y a des femmes qui ont une responsabilité dans l'Église. Quand je vous dis au conseil de l'évêque, il y a trois, dont une femme est
la
avocate.
De la conférence.
Donc, la présidente des conférences des religieux et religieuses est une femme. Et Macron est enseignante, en plus. Bon. Par la carrière universitaire, on a des hommes et des femmes, si vous voulez, dans des responsabilités d'église. Mais au niveau de l'ordination, on reste encore dans la tradition du christianisme d'origine d'Orient. C'est-à-dire que c'est les hommes qui sont ordonnés, mariés ou pas mariés. Il y aura un clergé catholique marié, maronite... Ben, c'est plus même en France. S'il est maronite et exerce en France, alors j'en connais. Hein. Donc, donc, on a un clergé Melkite, c'est des catholiques de rite oriental qui sont mariés. Et donc, mais dans la tradition d'Orient pour les chrétiens, on est ordonné dans la situation sexuelle dans laquelle on s'est engagé. Si on est engagé dans le mariage, on est ordonné prêtre marié. Si on est moine, en quelque sorte, parce qu'en fait, ça tient que à la tradition religieuse monastique, si on est célibataire, on est ordonné célibataire. Et on reste dans la condition marié et célibataire. Même dans l'Église catholique, aujourd'hui, quand on ordonne un homme diacre marié, puisqu'il est marié, on ordonne diacre, avec sa femme et ses enfants, hein. S'il venait à devenir veuf, la règle, c'est qu'il ne peut pas se remarier. Alors que dans la société civile, il peut se remarier. J'ai connu comme ça un diacre dont l'épouse avait une grande responsabilité au niveau de l'évêché et qui se trouve à recréer une relation amoureuse et une relation de couple et qui a cessé l'activité publique de diacre. Ça n'empêche pas qu'on ne retire pas l'ordination, mais il n'exerce plus son diaconat. Ce qui me semble un peu injuste, mais, puisque vous me demandez mon opinion, hein, et vous pouvez répéter. Donc il n'y a pas d'ordination de femme, hein, si vous voulez. Encore que vous savez que le pape demande à réfléchir sur sa situation. Des femmes en responsabilité diaconale dans l'Église catholique. Elle avait demandé à Madame Marie-Françoise Basselès, dont je vous ai parlé, professeure de Sorbonne, qui a écrit sur comment nos communautés chrétiennes sont devenues catholiques, ou qui a écrit un petit bouquin aussi qui était très intéressant, La maison Église, comment la première communauté chrétienne au 1er et 2e siècle. Parce que dans la tradition de Saint Paul, on a des femmes qui sont responsables de leur communauté, qui sont marquées dans la tradition des actes des apôtres ou des lettres de l'apôtre. Et puis, on a le côté plutôt patriarcal qui s'est imposé et qu'une ordination d'hommes mariés, que d'hommes. On voit bien qu'il y a une influence nordique de l'Europe dans le clergé anglo-saxon, anglican, épiscopalien, on voit le rôle des femmes en responsabilité dans la société. Dans nos sociétés patriarcales méditerranéennes, c'était plutôt, pas latine seulement, c'est de tout l'Orient, il y a le côté, la femme est maîtresse dans sa maison et dans l'espace public, c'est l'homme. Et donc, comme le culte de présidence est un culte public, effectivement, il y a ce problème qui est un problème culturel. Mais une fois, on m'a demandé, avec la caméra sur l'épaule, à la sortie d'une messe à Montfort-l'Amaury, c'était la télévision américaine, « Monsieur le curé, qu'est-ce que vous pensez de l'ordination des femmes, hein, ou l'ordination des prêtres mariés ?»« Je me range à la décision du Vatican », j'ai répondu, parce qu'il ne fallait pas prendre de risque. Après, je suis un peu tordu... vous dénoncer.
Bon, enfin, voilà, moi j'ai dit que dans l'église protestante, en tout cas depuis longtemps. Il n'y a pas du tout de différence, de possibilité, de responsabilité entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si vous avez. Alors, dans l'Église protestante unie, on n'a pas d'évêque, contrairement à. Les luthériens aussi, un inspecteur ecclésiastique. Enfin, il y a quand même une. Évidemment, on n'a plus le temps d'en parler, mais chaque paroisse n'est pas ce qu'on appelle congrégationaliste, c'est-à-dire elle fait ce qu'elle veut. Il y a au niveau régional un synode régional qui se réunit tous les ans, et également au niveau national, un synode national, pareil, qui se réunit tous les ans, et les délégués des paroisses ou régionales sont élus par les paroisses, et on voit des délégués au synode régional, et ça c'est paritaire autant de pasteurs que de laïcs. Et puis au synode national, c'est des délégués des synodes régionaux qui sont élus pour le national. Et ce qui est le plus important à retenir, c'est que c'est collégial, que l'autorité dans notre Église, c'est toujours collégial. Voilà.
Juste une question, je profite
de ce micro.
Est-ce que de tout temps les protestants avaient ouvert la porte aux femmes?
Non, j'ai dit les pasteurs femmes en France, mais on n'est pas les premiers, hein. C'est en 1966. Mais on n'est pas les premiers en Europe. Je pense que dans les pays nordiques, c'est avant. Voilà.
Mais les présidents de communautés protestantes peuvent être femmes.
Bien sûr, ici, c'est une femme, là, en ce moment. Oui.
Non, mais je souligne.
Non, mais je dis qu'il n'y a pas de, j'allais dire, discrimination, ça ne va pas plaire.
Alors, en ce qui concerne la communauté juive, alors effectivement, pour tout ce qui concerne les fonctions administratives, c'est-à-dire le conseil d'administration, la gestion, etc., toutes ces fonctions-là, tout ce qui n'est pas spirituel, bien sûr, et notamment à Versailles, où le conseil d'administration est, je crois, majoritairement un conseil d'administration de femmes. C'est pas le cas dans toutes les communautés, juives. Mais il se trouve qu'à Versailles, on a une majorité de femmes. En ce qui concerne effectivement les fonctions spirituelles chez les juifs, ce sont les hommes dans le système consistorial. Il existe un judaïsme libéral, et ce judaïsme libéral fait beaucoup la promotion des femmes comme Pauline Beb ou Delphine Orvilleur, qu'on voit beaucoup à la télévision et dans les journaux, etc. Mais ce judaïsme libéral a l'inconvénient, alors c'est bien parce qu'il est ouvert, au niveau culturel il est très intéressant, l'inconvénient qu'on a du judaïsme libéral, c'est qu'il n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'on a un judaïsme entre guillemets officiel, qui est le judaïsme consistorial, qui est en fait le consistoire qui a été créé par Napoléon. Hein. Et ce judaïsme consistorial fait que, si vous voulez, l'ennui dans le judaïsme libéral, c'est que notamment les mariages ne sont pas reconnus. Parce que. Alors pourquoi les mariages ne sont pas reconnus? Parce que le judaïsme libéral convertit très facilement. Et le judaïsme traditionnel, on va dire, consistorial, ne fait pas de prosélytisme, bien au contraire. C'est-à-dire que si vous voulez vous convertir au judaïsme, c'est très très long et très difficile, et même. À la limite, on vous décourage plus, c'est vraiment le parcours du combattant, c'est très compliqué, c'est très long, etc. Donc évidemment, la solution de facilité est d'aller vers le judaïsme libéral, qui est plus ouvert, qui est plus simple, plus tolérant, mais la difficulté, c'est que notamment les mariages ne sont pas reconnus. Et la seule façon de reconnaître le judaïsme il n'est défini que par le contrat de mariage. Il n'y a aucun autre document que le contrat de mariage qui dit que vous êtes que qui définit votre judaïsme. En fait, quand on veut savoir si vous êtes juif, vous êtes juif parce que vos parents ont un contrat de mariage. Mariage à la synagogue, bien sûr, religieux. Un contrat de mariage religieux.
Mais les contrats de mariage, ils sont conservés, il y a des archives
Oui. Non, la personne doit présenter, on doit présenter son document. Donc, il ne faut surtout pas le perdre. Parce qu'effectivement, normalement, on a des archives, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Nous a demandé à Versailles parfois de retrouver des contrats de mariage, c'est pas toujours évident de les trouver. Donc, en fait, quand on a un contrat de mariage, quand vos enfants, quand un enfant veut se marier, il montre pour montrer qu'il est juif, en fait, il montre au rabbin qui va le marier le contrat de mariage de ses parents. Et c'est dans la famille, bien sûr, pour qu'il établisse la filiation. Mais c'est le contrat de mariage qui est le seul et l'unique document qui fait le judaïsme d'une personne. C'est la raison pour laquelle, comme ce judaïsme qui est consistorial ne reconnaît pas les conversions des libéraux, c'est la raison pour laquelle il ne reconnaît pas non plus les mariages. Voilà. Donc la difficulté, c'est que du coup, les gens se retrouvent dans un système un petit peu marginalisé.
Alors après, en France.
Après, il y a des passerelles, etc. Mais c'est toujours un petit peu plus complexe. Alors il y a beaucoup de, on discute beaucoup au consistoire pour fluidifier, pour faciliter, les conversions. C'est d'ailleurs, je vais déborder sur autre chose, on dit toujours que l'enfant est juif si sa mère est juive. Mais c'est une question logique, parce qu'en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de père. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît le mariage que si c'est un mariage religieux. Donc à partir du moment où il n'y a pas de mariage religieux, le père n'existe pas. Donc l'enfant est l'enfant de la mère. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est tout à fait logique, c'est la raison pour laquelle on dit qu'un enfant est juif si sa mère est juive. Voilà.
Les imams.
Hein?
Les imams.
Non, mieux ça veut dire. Et Claire Rachandel. Juste pour donc le mariage célébré dans le truc libéral n'est pas reconnu finalement.
N'est pas reconnu par le consistoire.
Bon, ça va, ils font chemin à part, c'est un peu compliqué. Voilà. Dans le Coran, dans l'Arabie, il existait des juifs judaïsés, c'est-à-dire des gens qui, d'origine arabe, c'est les tribus arabes qui sont juifs. Ou l'Adina Hed, ou dans le Coran, c'est l'Adina Hed, à la différence, ou l'Yahoud, c'est-à-dire Bani Israël, fils d'Israël, ceux-là, ils sont juifs. Les autres ont été judaïsés. Bon, ça, c'est une parenthèse que je vais faire. Alors, pour les femmes, effectivement, on va retaper sur les mêmes spectres pour une bonne partie. Sauf qu'il faut savoir que dans l'islam, les épouses du prophète ont pratiqué la fonction d'imam. Les malikites ne reconnaissent pas le statut d'imam d'une femme, même si elle guide la prière que des femmes. Les malikites ne reconnaissent pas. Sinon, les trois autres écoles, parce qu'il y a quatre écoles importantes, prépondérantes, eux reconnaissent l'imamat de la femme. C'est-à-dire, si elle prie avec des femmes, une femme peut guider. Par exemple, dans les pays du Maghreb, ça n'existe pas, mais dans les 20-25 ans derniers, certaines femmes ont pris la chose dans le pays, puisque dans le corpus sunnite, ça existe, les femmes ont guidé, donc on guide. Alors, ils ont dit, les épouses du prophète l'ont fait, pourquoi nous pas? Sauf que dans le Coran, il dit aux femmes du prophète, vous êtes les mères des croyants, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Donc certains disent donc qu'elles sont distinguées des autres. Sauf qu'il y a une exception, vous savez qu'on est dans une période de l'illettrisme, et il y avait une femme qui était Hafidha, c'est-à-dire elle mémorisait le Coran par cœur, c'était très rare, même chez les hommes. Donc cette femme maîtrisait le Coran avec les sept lectures, et elle a demandé au prophète de l'introniser d'imam. Alors, le prophète lui a dit qu'elle était imam. Elle lui a dit, maintenant, je veux que tu m'assignes un muezzin, quelqu'un qui fait l'appel à la prière.
J'en ai dit oui, mais c'était très peu, mais qu'importe que ce soit très peu ou pas, c'est sur le principe. Alors j'ai dit ça à un ami qui est d'une très grande culture religieuse, il m'a dit ça n'existe pas, j'ai jamais entendu parler, je lui ai dit mais tu n'es pas la référence. Il m'a dit, alors il m'a dit donne-moi la référence, je lui ai dit voilà, ben, tu regardes le livre de Hamidullah, vous avez entendu parler de Mohamed Hamidullah, quelqu'un qui parlait une trentaine de langues, qui a plusieurs doctorats, qui était en France et il est mort aux États-Unis à un peu plus de 90 ans. Il a écrit le livre La vie de Mohamed. Dans ce livre-là, ou dans d'autres, à vos souhaits, il décrit cette situation. Mais ce qui est bien chez Hamidullah, comme dit le professeur Jean-Louis Herbert, il a innové dans la recherche, dans la méthodologie de la recherche, Hamidullah. Donc on lui reconnaît cet aspect-là, et il donne les références. Donc j'envoie à mon ami les références, c'est Sir Norijian qui est très connu chez les musulmans, c'est une référence première, et il va et il trouve. Il dit comment ça se fait, il m'a dit que je n'ai jamais entendu. Juste, je vous dis ça pour que vous compreniez un peu la chose, pourquoi elle est occultée. Effectivement, cette femme a existé, mais la plupart... Les mouftis que je connais me disent « Oui, mais c'est un cas exceptionnel. » Oui, mais même si c'est un cas exceptionnel, ça veut dire que dans l'imaginaire du prophète, il n'a pas empêché cette femme de pratiquer d'être imam, sur le plan du principe. Après, il y a le contexte culturel. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Si culturellement, le but de l'imam, c'est d'unir les gens qui sont derrière lui. S'ils ne le produisent pas, ils ne le produisent pas. Alors, ce qui est un peu rocambolesque, c'est que le Hanabil, c'est une des grandes quatre écoles, ils disent plus qu'il y a un hadith qui existe, alors cet imamah, parce que nous on ne se base pas sur l'expérience, mais on se base sur l'existence ou pas du hadith. Imam Malik dit non, regardez tout Médine, ça c'est pas pratiqué. Donc la pratique des gens de Médine qui a été toujours conforme, dans leur état d'esprit, ça n'existe pas. Donc, les femmes du prophète l'ont fait, donc c'est une exception. Donc, à part les femmes du prophète, il n'y a rien d'autre. Donc, l'imam Malik l'exclut. Le Hanabila, c'est l'imam Ahmed Mohammed qui est descendant du prophète, lui, il dit puisque le hadith existe, donc la femme a droit à son imamah. Alors, comme ils ont été gênés, alors ce qu'on appelle les wahhabistes, qui étaient à court d'arguments, ils ont dit on va s'adosser au madhhab Hanbali. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, oui, mais c'est vrai que si on la met devant, c'est gênant. On va la mettre derrière. Comment tu peux suivre un imam qui est derrière toi?
Tu ne la vois pas.
C'est un peu invraisemblable. Mais juste, pourquoi? Parce que en fait, ils ont trouvé le hadith qui est reconnu comme étant authentique, mais que les malikites, ils disent, oui, cette femme, à titre exceptionnel, parce qu'on était dans une conjoncture, parce que l'imam Malik, il dit, il y a l'abrogation des versets et il y a l'abrogation des hadiths. Donc, par exemple, Yahya a prié derrière le prophète, et les gens dans la tribu là-bas ne savent pas encore prier. Donc, il va lui dire, Yahya, tu as prié avec moi, tu vas guider la prière des gens qui sont là-bas. Donc, Yahya, il va aller là-bas, et lui, il n'a pas l'obligation de l'intention d'imam. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ceux qui prient derrière lui, ils font l'intention d'imam. L'imam Malik qui dit tout ce genre de hadith sont des hadiths transitoires. C'est-à-dire qui accompagne à une situation d'équilibre. Donc il faut bien comprendre les règles coraniques, c'est-à-dire d'abrogation et de non-abrogation, pour comprendre la législation. Voilà pourquoi il y a un petit propos, la femme est l'imam, elle n'est pas, etc., etc. Cela dit, à l'Azhar, il y a des femmes qui forment les imams.
Tu en penses quoi?
J'en pense quoi? Ben, c'est les épouses du prophète, il y a des versets où Dieu dit, vous devez former les gens. Les gens, ils viennent. Mais derrière un voile, parce qu'elle est mère des croyants et elle n'a plus le droit de se marier après la mort du prophète. Puisqu'elle est mère, elle est décrétée mère du croyant. Donc, elle va officier, elle va apprendre aux gens. L'imam envoie l'imam Shafiri, vous savez que l'imam Shafiri était à Médine jusqu'à 25 ans. Après, il a été au Yémen, il avait une formation plutôt, il a eu des fonctions de politique plutôt, de préfet. Et ensuite, à cause d'un malentendu, le califat à Bagdad l'a accusé d'être proche du courant de Ali, ce qu'on appelle les Shia. Shia qui veut dire les alliés de Ali. Et il a failli être décapité. Et il y avait séparation de l'église et du droit, c'est-à-dire à cette époque du temps de Al-Rachid. Et donc ce qu'on appelle Qadi Qudat, le juge des juges, a empêché la, disons, le fait qu'on donne la mort à l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, tout ça, il a développé, il a écrit le livre La Mer, un premier livre à Bagdad, et un deuxième, il a écrit le livre Mer au Caire, puisqu'il a émigré au Caire pour des raisons aussi politiques, et il visitait une descendante du prophète qui s'appelait Nafissa. Et qu'il allait apprendre chez elle un certain nombre de choses. On voit bien que la femme, elle joue quand même un rôle dans les formations. Aujourd'hui, à El Hazar, on les voit dans la télévision, on les voit dans les chaînes de télévision. Elles peuvent guider la prière des femmes. La femme peut, selon les courants sunnites, guider la prière dans sa maison si son mari est moins cultivé religieusement qu'elle, ou ses enfants, tous ceux qui ne peuvent pas l'épouser, enfin, qui sont ce qu'on appelle maharim. Elle peut guider cette prière. Donc ça existe.
Mais pas en public, ça c'est sûr.
Pas en public. Alors, chez les malikites, niet. 100%, rien. Chez les autres courants, elle peut guider la prière dans sa maison, avec ses proches parents, etc.
Elle peut guider d'autres femmes aussi.
D'autres femmes aussi, etc.
À l'extérieur ?
Oui, d'autres femmes à l'extérieur, dans une mosquée, ça existe, ça.
Oui.
C'est courant. Mais pas, on ne guide pas les gens. Bon, il y a eu le truc aux États-Unis, vous l'avez entendu, etc.
Parce que vous ne vous mélangez pas, ça
on
n'a pas dit.
Hein. Mais je dis que la femme imam que le prophète a, c'est-à-dire, reconnue, elle guidait les hommes et les femmes.
Oui. D'accord. Vous étiez mélangé pour prier.
C'est un petit groupe, mais en restant sur le principe, à partir du moment où on lui accepte au statut d'imam, avec des étrangers, vous comprenez ce que vous voulez dire, c'est des gens susceptibles de se marier avec elle. Donc, quelques étrangers aussi, quel que soit le nombre. La question, c'est le principe, c'est pas le nombre. À partir du moment où le prophète a acquis, et on dit dans la Sira, il l'a visité avec un certain nombre de compagnons. Alors, les autres, le législateur, il dit oui, c'est vrai, mais parce qu'on était dans une conjoncture où il y avait très peu de gens qui maîtrisaient la langue, que l'école était en quête de se structurer. Donc il lui a donné un privilège particulier sur lequel les savants ont divergé très majoritairement. Bien sûr, on ne reconnaît pas l'imamat de la femme, c'est-à-dire en public. Voilà pour la question de la femme. Attendez, je n'ai pas oublié quelque chose, non. Voilà.
Il y a peut-être encore une question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans
5
minutes, on est parti.
Oui,
voilà.
Oui, d'accord.
On n'est
plus au centre-ville.
Oui, allez-y. Si on vous entend pas, je dis, lève-toi.
Approchez-vous.
Donc, juste, bon, enfin, en parenthèse, est-ce qu'il y a de femmes imams en France aujourd'hui?
Oui, il y en a 4.
Oh, c'est 4. Ah, je n'ai pas compris alors.
Non. Mais elles ne sont pas reconnues.
Mais elles
ne
sont pas reconnues.
Non, je ne parle pas des rabbins. Je n'ai pas compris. Non, mais ma question était, chez les protestants et les catholiques, je sais qu'il y a la Fédération protestante de France, il y a évidemment l'hiérarchie de l'Église catholique. Hein. Est-ce qu'entre synagogues et entre mosquées, est-ce qu'il y a des instances de fédération des... Tu parlais de...
Oui, c'est aussi aux histoires.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Oui, mais je ne vois pas bien comment ça fonctionne. Je vois bien. Alors. Et puis, pour les musulmans, comment ça fonctionne entre communautés, quoi, si on peut dire.
Alors, il existe un juif, il existe un consistoire, le consistoire de France. En fait, c'était ce qu'on appelait le consistoire central. Alors, le consistoire central, il fédère, d'une part, le consistoire de Paris et tous les consistoires de province. En fait, nous, Versailles, d'ailleurs, on est un consistoire de province. Donc, on est directement, on n'est pas affilié au consistoire de Paris, mais on est affilié au consistoire central directement. Comme la province. En fait, on a un petit consistoire régional à nous tout seuls. C'est une petite particularité qu'on a. Le consistoire de Paris fonctionne un petit peu différemment du reste parce que les communautés de les consistoires de province, dont Versailles, sont des consistoires indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont leur, ils payent leur rabbin, ils fonctionnent exactement comme nous. Ce sont des associations. Ils fonctionnent de manière financièrement indépendante. Le consistoire de Paris. Il fédère des communautés, il salarie les rabbins et il envoie les rabbins dans telle ou telle communauté affiliée du consistoire de Paris. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il fonctionne. Le consistoire central a un rôle très important parce que c'est lui qui a les relations avec les pouvoirs publics et notamment c'est lui qui salarie et qui élit le grand rabbin de France. Voilà. Alors, en fait, on a un système un peu à deux têtes. On a le président du consistoire central, qui est aujourd'hui M. Élie Corcia, et on a le grand rabbin de France, qui est Raïm Corcia. Voilà, aujourd'hui, on a un peu des homonymes, hein, qui a été longtemps Joël Bernier. Absolument. Et voilà, il faut qu'on a ces deux, donc Élie Corcia, qui a été nouvellement élu, qui est un avocat, et Raïm Corcia, qu'on connaît, qu'on voit beaucoup dans les médias, qui était le grand rabbin de Reims pendant assez longtemps. Voilà. D'ailleurs, nous avons bientôt une conférence avec le grand rabbin de la Moselle, Monsieur Bruno Fison, qui va nous parler de l'abattage rituel le 11 janvier. Je vous en engage à venir.
Le 11 janvier, conférence à deux voix. Une voix juive, c'est le rabbin Fison, qui est à la fois grand rabbin...
Qui est vétérinaire.
Et fait partie de ça de l'Académie vétérinaire, qui a écrit un livre qui s'appelle « Et Dieu créa l'animal », avec une voix musulmane. Alors là, le nom, je ne saurais pas le dire.
Mohamed Bejrafi.
Bon, alors vas-y. Oui. Puisque, en fait, je vais parler de la cache-coute, halal et tout ça. Entre autres.
Donc, le janvier a noté dans vos tablettes.
Non, je parlais du rabbin Fison parce que le rabbin Fison est le rabbin de la Moselle. C'est parce que je parlais des consistoires de province. Et lui, il est du coup de la Moselle, donc il est
concordataire.
Ah oui. Si on veut savoir un peu comment fonctionne le concordat, c'est peut-être un bon moment.
Ils sont fonctionnaires.
Parce qu'eux sont fonctionnaires. Comme un exemple. Et eux sont nommés, en fait. Eux, ils sont payés. Ils ne sont pas payés par les communautés, ils sont
payés par l'État. Par
l'État ou la région.
Ils sont fonctionnaires.
Enfin bref, ils sont fonctionnaires. Ce qui est tout à fait différent du reste de la
place. C'est une exception historique.
Voilà, exception historique.
Dans les différentes synagogues du consistoire de Paris, il y a il y a des libéraux et des moins libéraux.
Le consistoire, elles sont toutes pareilles. Par contre, chaque communauté, même si elle est entre guillemets consistoriale, peut être affiliée ou pas au consistoire. Quand si elle a envie d'être indépendante, elle peut rester indépendante et simplement juste affiliée, ou elle peut être consistoriale de Paris, c'est-à-dire vraiment où elle a une organisation, un fonctionnement qui est mutualisé avec le consistoire de Paris. Je crois que par exemple est indépendante, et j'ai demandé une affiliation simplement pour être dans le calendrier, mais ils sont complètement indépendants. Financièrement.
Il faut absolument s'arrêter. Désolée, parce que nous, il faut prendre.
Merci à tous, merci de votre participation, merci aux intervenants, surtout vos explications. Faites très attention en sortant, parce que c'est glissant, il y a déjà une personne qui est tombée. Première chose. Deuxième chose, vous avez des petites corvées qui vous attendent si vous souhaitez participer au fonctionnement de l'association. Et rendez-vous le 11 janvier pour le sacrifice à l'Église.
On va parler des calendriers.
Comment ça va, Henri ?
Thank you.
Avec des fêtes religieuses. Ça peut être intéressant pour offrir, sensibiliser.
Ah oui, ça c'est une magnifique cadeau. Ça.
Oui, oui.
Ah ben, ça, je vais l'année,
je sais pas.
Belle sœur a été coexistée pendant des années. C'est moi qui l'ai fait.
Merci, c'était très intéressant.
Merci à vous.
Bon, ça va,
ça va. Tu as vu dans le bulletin. Alors c'est
devant de la nuit quand même.
J'en aurais pas pour tout le monde.
Vous voulez être inscrite sur les listes de diffusion pour avoir l'information des prochaines rencontres.
Ah ben oui, pourquoi pas. Oui.
Vous pouvez donner vos coordonnées.
Ah bah oui.
Tiens. C'est une association ville très haute.
Tiens.
Ouais, ouais, ben,
voilà. Ça, c'est bon. Il faut merci.
Tiens, tu as pris le calendrier.
Non.
La corbeille, c'est plutôt là. Mais c'est tout.
Ah, je sais pas. Non, mais je voyais 7 euros, donc j'ai mis 7 euros.
Ah, mais t'as mis 7 euros.
Mais je sais pas, c'est. Mais
c'est ça, alors.
Ah, merde. Merci. Oui, c'est vrai. Ça fait presque 2 ans que je ne peux plus chanter. Donc j'anime plus les messes, et depuis le Covid.
Comme ça. Et là j'ai donné 10 euros et je te donne 4 euros en France, c'est ça. Merci.
C'est mon téléphone.
Non, c'est le mien, pardon. C'est que j'ai enregistré, oui. J'ai enregistré.